Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 207e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 7 août et au sommaire de ce soir, les nouveaux comics de la semaine avec au programme du Marvel Superior Spider-Man revient pour un numéro 32. La suite de Rocket Raccoon, la fin des premiers runs sur Moon Knight de Warren Ellis et Declan Shalvey. En Inde, nous parlerons de Terminal Hero, nouvelle série de Peter Milligan, Spread, Harbinger, évidemment Harbinger Omegas, ainsi que chez DC Grayson pour son deuxième numéro. Le gros moment Superman avec l'arc Doomed qui est au programme de cette semaine. Et ce sera tout pour cette émission. Bien sûr, vous retrouverez les TP à la fin de chaque section. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Mais aussi Flo.
Salut les bros et les six. Ouais, pour vous délivrer des salves de bonheur, de review dans vos oreilles.
Waouh, ce démarrage.
Ouais, c'est beau, hein, ça fait un peu un téléphone rose, tu sais.
Ouais. Ouais. Enfin, moi personnellement, ça m'en met pas même pas une demi-molle, hein, mais bon. Peut-être que certains, voilà, je ne sais pas. Ou certaines après tout. Nous allons démarrer les sorties de la semaine avec du Marvel. C'est toi, Bruno, qui ouvre le bal des sorties avec le retour de Superior Spider-Man pour un numéro 32.
Ouais, on arrête de dire des bêtises. Alors, c'est écrit par Dan Slott et Christos Gage avec des dessins de Giuseppe Camuncoli. Pour la partie principale, sachant qu'on aura un petit backup qui sera dessiné par Andy Kubert. Donc c'est le retour effectivement de Superior Spider-Man, ce qui est assez étonnant puisque Doc Ock n'est plus dans le corps de Spider-Man depuis un petit moment maintenant, il a même disparu. Donc en fait ça s'explique par le fait que dans les épisodes qu'on a pu lire, c'est-à-dire à partir du numéro 19, quand il y a eu ces histoires de voyages temporels entre 2099 et notre époque, il y a eu un moment où en fait Superior Spider-Man s'est retrouvé dans le futur. Et on le revoit un petit peu plus tard dans le numéro revenir, avec son costume déchiré, et on sait pas ce qui lui est arrivé. On le voit, il a l'air de parler avec quelqu'un au moment où il est téléporté à notre époque. Et en fait, ce comics-là qui sort, là, ce numéro 32 et le numéro 33 qui va sortir prochainement, vont nous raconter ce qui lui est arrivé quand il est allé dans le futur. Et en fait, c'est aussi un prologue à Spider-Verse. Donc voilà, ça permet de mêler ces deux choses. Donc on a Doc Ock qui se retrouve envoyé dans le temps. Alors c'est assez amusant, on le voit passer, voir pas mal de dimensions alternatives possibles de l'univers Marvel. Par exemple, on voit Old Man Logan à un moment, on voit Marvel 1602, je crois. Voilà. Et puis finalement, il arrive en 2099 et il va être opposé aux menaces classiques du Spider-Man 2099. Et en fait, en essayant de trouver un moyen pour revenir à notre époque, il va se rendre compte, via en fait un problème dans sa machine, qu'il va arriver sur une autre Terre, où en fait il tombe sur un Spider-Man, une version de lui qui est morte. Donc la machine va mal fonctionner plusieurs fois, et à chaque fois, la même chose. Il va arriver sur une Terre, par exemple, il arrive sur la Terre de House of M, et là il trouve un Spider-Man mort, il arrive sur la Terre Civil War, ou si par exemple Civil War était allé jusqu'au bout, et là il a le Spider avec son Iron Armor qui est mort. Et donc là il dit, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, on va rencontrer pour la première fois ce fameux tueur de Spider. Dans une grande partie du comic, ça va se passer dans une terre assez amusante puisque c'est Spider-Man India. Spider-Man India, en fait, c'est un comics qui avait été publié d'abord en Inde par Gotham Entertainment Group et qui avait été republié après aux États-Unis par Marvel, où en fait tous les personnages de Spider-Man sont des personnages indiens. Il y a Meera Jane qui est une sorte de Mary Jane, il y a Auntie Maya qui est Aunt May, enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont assez rigolos, et c'est Peter Parker ou un truc comme ça. Enfin,
oh putain.
et donc en fait il va faire un team-up avec ce Spider-Man alternatif et on va découvrir qui est cette menace. Alors voilà,
Attends. Avant que t'ailles plus loin, moi j'ai quand même une grande question hyper essentielle à ce comic.
Ouais.
Est-ce que ça chante?
Non, putain, j'allais demander.
Mais oui, ça aurait été l'occasion effectivement de faire une partie Bollywood, mais on n'a pas
avec
ça.
Avec le Marvel AR, je veux dire, ça aurait pu être possible de faire un petit truc, quoi.
Carrément. Mais après, ce Peter Parker version indienne avec ses babouches et son petit pantalon bouffant est assez amusant quand même. Et voilà. Et puis alors la personne qui tue tous ces Spider-Man des différents du multivers, c'est peut-être pas la personne auquel on pouvait s'attendre, surtout après avoir lu le Free Comic Book Day. Là, on a un costume assez étrange, un petit peu steampunk, donc et qui laisse l'identité de ce personnage encore inconnue. Ça se termine avec un petit cliff sur le plan de Spider-Hawk. Qui est assez intéressant avec à nouveau des personnages d'univers alternatifs qui se rassemblent et voilà, c'est plutôt fun, vraiment vraiment cool. Alors le backup c'est donc Christos Engage et Adam Kubert. Là je l'ai trouvé un petit peu décevant parce que là c'était vraiment trop redite par rapport à ce qu'on avait vu avant. C'est juste on va voir une des terres parallèles, on va voir ce méchant qui essaye de tuer un Spider-Man, mais c'est pas très original, c'est assez court, c'est pas voilà, cette partie était beaucoup moins intéressante. Donc au final bonne entrée en matière pour Spider-Verse. Je pense que ça va être assez fun de voir toutes ces versions alternatives de Peter Parker et des Spider-Man, de personnages avec des pouvoirs d'araignée. Mais voilà, le backup était pas terrible terrible. Donc du coup, ça aurait été à 4$, ça aurait été vraiment un gros gros buy. Le fait de l'avoir mis à 5, je mets un check-it de plus. Voilà.
Eh oui, non seulement Marvel met ses comics de plus en plus chers, mais en plus il continue avec les voyages dans le temps, chose dont les gens commencent à en avoir sacrément marre. Donc allez-y si vous êtes fan encore des voyages dans le temps. Si voyages dans le temps version Marvel vous ont pas gonflé.
Ouais, alors celui-là c'est voyage dans le temps, effectivement. Après Spider-Verse ce sera plus voyage interdimensionnel.
Oui, non, c'est juste que j'ai l'impression que chez Marvel il n'y a plus que ça depuis 3 ans maintenant, quoi. Ça commence à casser sérieusement les couilles.
C'est pas que chez Marvel, hein, mais oui.
Marvel sont
les
spécialistes.
C'est beaucoup chez Marvel.
Là,
ouais, c'est vrai.
Là
c'est
je veux dire, les Deus Ex Machina de fin d'event avec un voyage dans le temps, ça commence à être vraiment, vraiment chiant. Enfin bon, il est comme ça. C'est Marvel. Espérons que le mois d'avril, il fasse fermer sa gueule. Ça, ça nous fera vachement des vacances, quand même.
Je me suis pas attardé sur la partie graphique parce que c'est Camuncoli et Cobert et que c'est quand même très solide. Donc, la partie graphique était parfaite.
Parlons d'un autre titre avec une partie graphique vraiment particulière, une colorisation de Jean-François Beaulieu et bien sûr des dessins de Scotty Young qui est aussi au scénario. Il s'agit de Rocket Raccoon numéro 2, deuxième épisode de cette série qui m'avait, en tout cas pour ma part, énormément surpris au premier épisode. Je m'attendais à un truc fun mais pas à ce point. Eh bien, ce deuxième épisode ne va pas déroger à la règle, on a un épisode complètement fou. Et c'est vrai que la patte graphique de Scotty Young et la colorisation de Jean-François Beaulieu donnent vraiment, vraiment beaucoup de charme à cette série et amplifie ce côté comique. On a un petit peu cette ambiance qu'on avait dans les séries Oz, hein, qui étaient faites par les mêmes auteurs, qui étaient publiées chez Marvel et qui se sont arrêtées en début d'année.
Mmh. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est superbe du début à la fin. Voilà, la partie graphique, il y a vraiment rien à redire. Surtout que voilà, on a quand même un comics qui n'est pas complètement édulcoré, c'est-à-dire qu'on a quand même des scènes de violence malgré tout. Donc
oui, des scènes de violence autant dans visuel que dans les dialogues.
Exactement. Voilà, mais après oui, je parlais pas de l'histoire, mais l'histoire je la trouve très très bonne également.
Eh bien l'histoire, on se rappelle, Rocket Raccoon est accusé de meurtre. Meurtre qu'il ne comprend pas puisque ce sont des gens qu'il n'a pas tués, alors qu'il est le premier à se vanter des gens qu'il a tués, et il s'aperçoit qu'il y a un autre raccoon, si on peut dire ça comme ça, puisque lui-même n'est pas un raton laveur, il insiste bien sur ce
surtout
point.
Surtout pas le dire.
C'est un extraterrestre, ce n'est pas un raton laveur. Voilà. Bref, relisez les histoires de Rocket Raccoon pour mieux comprendre.
Et il est soi-disant le dernier de son espèce.
Exactement, voilà, c'est un Superman version raton laveur.
Ou plutôt ou Lobo aussi. Ça peut
ou
être
Lobo,
un peu ça.
Ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, se rendant compte qu'il n'est pas le seul de sa race, il décide de se faire emprisonner pour aller chercher quelqu'un, C'est ce qu'on va comprendre dans cette histoire. Quelqu'un qui pourra lui donner des informations qu'il ne peut pas avoir seul ni avec l'aide des gardiens. Et on va assister à une espèce de prison qui est soi-disant une des prisons les plus sécurisées de cosmos, hein, avec des gens complètement tarés qui sont dedans, dans lesquels il va se retrouver en cellule, enfin avec qui il va se retrouver en cellule, et après avoir montré qui c'était le boss, il va s'en faire des potes.
Il faut pas caresser Rocket Raccoon.
Les mecs sont aussi tarés que lui, voire ouais. Peut-être pire. Mention spéciale au mec qui a l'air tout gentil et qui parle de faire des trucs super sympas avec des têtes coupées.
Ouais.
Je ne mangerai plus jamais de céréales.
Un petit bol de céréales.
De la même façon. Et bien sûr, quel est le grand ami de Groot? De. Eh merde. Vas-y, spoil voilà. Quel est le grand ami de Rocket Raccoon? C'est bien sûr Groot qui va avoir une part importante dans l'histoire. Je vous laisserai de voir et par vous-même, dans la lecture de cet épisode, comment Groot va arriver à s'infiltrer dans cette prison. C'est génial. On a une scène de Prison Break excellente. Limite, ça pourrait être le tatouage sur le corps de Michael Scofield.
Ouais, on a une scène de montage aussi. il manque plus que la petite musique et tout. Voilà.
C'est vraiment super. C'est délirant. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Les personnages, le personnage qui va les rejoindre dans cette prison, qui va lui permettre d'accéder à l'autre personnage qu'il cherche, est aussi taré que lui, ne serait-ce que visuellement. Et puis, on a cet autre raccoon. Alors, qui est-ce?
Ouais. Et le tout,
le tout
se conclut en plus avec l'autre intrigue, donc oui. Il arrive bien à mêler ces différentes intrigues et à ce que ce soit logique et captivant. Voilà. Donc,
je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas justement à ce que cette deuxième intrigue qu'on avait vu arriver à la fin du premier épisode, c'est-à-dire c'est toutes les princesses avec qui que Rocket Raccoon a sauvé et qu'il a gentiment défloré, qui viennent se venger parce qu'il les a lâchement abandonnées après avoir eu ce qu'il voulait. C'est un homme, quoi. Voilà, oui. C'est ça. C'est un raccoon, mais c'en est pas moins un homme.
Mais du coup, c'est à se demander si la personne qui a commis des meurtres, c'est peut-être un de ses enfants, je sais pas.
Peut-être un de ses enfants.
Je me suis posé la question.
Peut-être une version alternative. Je sais pas. Moi, je penche pour la version alternative, mais le coup de l'enfant, c'est une possibilité effectivement. Vraiment un super épisode où on se marre pas. C'est pas du méga. Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas marré façon méga rire, mais ça m'a vraiment fait sourire à chaque page. Il y a des détails partout. Vous pouvez le feuilleter plusieurs fois. Pour voir tous les détails.
Même au niveau du lettrage, de tout ce qui est les petites onomatopées, il y a plein de petits détails partout. Et effectivement, oui, comme tu dis, on peut passer plusieurs longues minutes à partager, à vraiment regarder le comics et à trouver plein de choses intéressantes. Tout particulièrement cette page effectivement où il s'échappe de la prison, qui est sublime.
Non, vraiment, une très très bonne série sur laquelle j'aurais pas parié au départ. Je me suis dit Rocket Raccoon, une série Rocket Raccoon. Ça risque d'être un peu chiant, ça va être... c'est vraiment capitalisé sur le truc, mais pourtant, cette série est vraiment très bonne.
Ouais. Et puis, le truc un petit peu malin, c'est que, bon, on n'a pas encore vu Les Gardiens de la Galaxie, mais on a vu la bande-annonce. Dans la bande-annonce, il y a aussi une prison à laquelle il faut s'échapper. Ils font, ils essayent de replacer un petit peu des choses qui pourront paraître, familières aux gens qui auront peut-être vu le film au cinéma. Bon, voilà, c'est assez malin de la part de Marvel.
Sur les 5 ou 6 numéros que fera Scotty Young, parce qu'il faut pas se mentir, il en fera pas 10, tout ce premier arc, ça fera un best-seller en recueil.
Mmh. Ah oui,
ça sera un must-have en recueil, je pense.
Autant voilà. Je pense pour les nouveaux lecteurs qui auront découvert le personnage grâce au film, parce qu'ils pourront le lire sans forcément avoir beaucoup de connaissances sur l'univers Marvel, il n'y en a pas besoin. On suit Rocket Raccoon qui est clairement le personnage qui va se détacher dans ce film. Avant même de l'avoir vu, je pense que ça va être le cas. Ça va être la grosse star, ouais. Et puis, pour les fans de comics comme nous, qui ont envie de lire des choses un petit peu différentes de la science-fiction complètement barrée... Attention, petit...
Ouais. Petit rappel. SDCC 2014.
Eh oui, de la continuité chez nous. Ouais. Nous aussi.
Non, puis c'est surtout, on a quelque chose qui dénote, encore une fois, par rapport à d'autres titres Marvel. On a quand même un ton un petit peu différent. On a une touche graphique... Qui sort de l'ordinaire, oui. Et pourtant on est quand même en continuité et on a même pas mal de références à la continuité des gardiens, donc non, c'est cool.
Cette série est un peu la même surprise qu'avait été pour moi Hawkeye à l'époque. J'aurais pas parié sur une série Hawkeye, et pourtant quand je l'ai lu, waouh, le choc, et bien pareil avec ce Rocket Raccoon. J'aurais pas parié dessus, et pourtant vraiment très très bonne série. Gros bail pour moi que ce Rocket Raccoon numéro 1.
Gros bail aussi pour moi.
Tu nous parleras de l'autre série gardien tout à l'heure. Pour l'heure, nous allons passer la parole à Flo qui va nous parler du dernier numéro avec l'équipe créative actuelle, de Moon Knight. C'est le numéro 6.
Oui, par Warren Ellis, Declan Chalvet et Jordi Belair. Évidemment.
Jordi Belair que je n'avais pas cité dans l'intro, j'en suis désolé, mais j'avais pas le temps.
Donc, dernier numéro. Warren Ellis ne sera pas resté longtemps, mais bon, Warren Ellis n'est pas un habitué des longs runs, quand même, et encore moins chez les Big Two.
Ne l'est plus, parce qu'il a quand même fait des runs assez conséquents sur certaines séries. Je me rappelle par exemple Excalibur, sur lequel il était passé un long moment quand même.
Oui,
beaucoup plus long en tout cas que ça.
Oui, c'est ça.
Ou même
ces dernières années,
X-Men,
passé plus des 12-13 numéros, quoi, globalement.
Ouais, même ces 2-3 dernières années, il dépasse pas 6. Hein. Rappelle-toi, ouais, Secret Avengers, il était resté 6 numéros qu'il avait co-écrit en plus avec quelqu'un. Enfin...
Il y avait Avengers Assemble récemment. Il a fait que 4 numéros, je crois.
Il a fait 3
ou 4. Ouais, 3.
Donc, ce dernier numéro, vous attendez pas à voir un Moon Knight grandiose, puisqu'on le voit sur 3 pages du numéro. C'est pas génial.
Un peu à l'image de ce qui avait déjà été fait sur la série. C'est sa série, mais il est jamais dedans.
Oui et non. Enfin, on va dire sur la moitié du numéro, c'était le cas. Là, on va suivre Ryan Trent, en fait, un officier de police, un petit peu loser, qui a plein de colère en lui et plein de ressentiments contre notamment Moon Knight, parce que il vient sur une enquête à un moment et il fait un peu ce qu'il veut sur la scène du crime, et lui il est pas d'accord, il va en gros vouloir prendre la place de Moon Knight pour que les gens l'aiment. Voilà, c'est un peu et donc en gros tout le numéro va s'attarder sur les efforts que va faire et l'enquête que va faire cet officier de police pour trouver Moon Knight et le piéger. Il va s'entraîner, etc., pour essayer de prendre sa place finalement. Donc il va enquêter, il va rencontrer des personnages qui ont croisé qui sont passés dans la vie de Moon Knight, donc que je ne connais pas, mais que les gens qui connaissent le personnage doivent connaître, notamment son ex-femme, j'ai l'impression, son ex-copine, et un certain Jean-Paul Duchamp également, qui peut-être est connu, voilà. Il va enquêter, et à la fin, il y aura une confrontation, voilà. Et je vous dis pas qui gagne, mais bon. Disons qu'il y a un numéro 7 le mois prochain, donc voilà.
Oui, mais pas par la même équipe créative.
Non, pas par la même équipe créative, et j'en parlerai juste à la fin. Au final, je suis un peu déçu quand même de ce numéro, qui a pas particulièrement de génie dans la narration, qui est pas particulièrement un exercice de style, qui juste, on va dire, permet à Warren Ellis de montrer la nature profonde de Moon Knight tout à la fin grâce à ce qui arrive justement à cet officier, et grâce à la psyché de cet officier, quoi. C'est, je veux dire, le seul accomplissement de ce numéro, mais globalement c'est quand même un petit peu décevant, je trouve. On n'a pas l'audace narrative qu'il y avait notamment dans le premier numéro, ou le deuxième, je sais plus, qui était vraiment, le storytelling était complètement fou. Je sais pas si vous vous souvenez, avec tous ces gens qui se faisaient assassiner.
C'était dans le deuxième, je crois, ça.
C'était le deuxième, ça. C'est ce qui était incroyable, qui était vraiment incroyable. Là, voilà, on est vraiment sur quelque chose de classique. Bon, globalement, sur ces 6 numéros, celui-là, je l'ai trouvé assez faible. Et si je devais noter ce run de 6 numéros, je sais pas trop quoi dire. C'est un peu Warren Ellis qui s'amuse à faire des one shot, et au final le problème c'est que c'est un peu vain, je trouve. J'ai vraiment apprécié les 5 premiers, voilà, pour ce qu'ils étaient. Certains se lisaient très très vite, et je trouvais quand même qu'au final ça fait un peu chier. Voilà, je suis assez mitigé finalement. Ce dernier numéro n'est pas vraiment une note glorieuse qui me permet de dire que c'est vraiment un gros bail. Donc ça restera un check-it pour ce numéro, et un petit bail pour l'ensemble du run, parce qu'il y a quand même des moments de bravoure assez incroyables, mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin que ça, quoi. Des fois c'est un petit peu facile, je trouve. Donc voilà. Et juste une petite note à la fin, comme je pense que les éditeurs de chez DC ont un peu peur que la moitié des lecteurs se barrent avec ce numéro, ils ont mis...
Chez Marvel, tu voulais dire, je pense.
Des éditeurs chez Marvel, oui.
Il y a tellement de décès que...
Chez DC, j'ai dit ?
Oui, oui, oui.
Ah merde.
C'est pour ça que je me suis permis de te corriger.
Ah, je suis désolé. Ils font ce que, d'ailleurs, DC fait beaucoup plus souvent qu'eux, ils ont mis une preview du numéro suivant. Donc par Brian Wood et Greg Smallwood. Il y a le bois et le petit bois. C'est con. Et cette preview de 4 pages ne m'a pas du tout donné envie de lire.
Bah merde.
Donc, pour les anglophones, c'est un comics qui ne t'a pas... Enfin, c'est une preview qui t'a pas donné la gaule.
Non, tout à fait. C'est ça. Voilà.
Level up
du
de
bois.
Man. Ouais,
touchons du bois pour que ça soit quand même pas mal.
Ah bah, tu touches ce que tu veux.
Non mais du bois.
Oui, oui, non mais oui.
Non.
Mais, oui.
Bon. Bon. Désolé. T'es
un petit peu
dans la lune.
C'est tambourbage.
T'es un peu dans la lune. Tu ne suis pas.
Ah bah non. Je ne suis pas dans.
C'est tellement
double
de sens.
Oh,
ce
vieux double sens.
Ouais. Creusons encore. Voilà, tout ça pour dire que ce numéro est un check-it, que je suis pas aussi dithyrambique et trollesque qu'un certain Sam, notamment sur Comic City. Même si, très honnêtement, certains de ces 6 numéros m'ont vraiment très impressionné. Globalement, bah, c'est pas non plus, c'est pas fou. Mais vous allez avoir droit à un super TP de 6 numéros qui sera vraiment très bien.
J'aurais juste une petite question pour toi, puisque je n'ai pas eu le temps de lire cet épisode-là, ce dernier épisode. Que donne la preview graphiquement du numéro 7 ? Que Alors donne Smallwood ?
C'est assez sympa. Ça ressemble un peu à du... À du Gary Brown ou du Declan Chalvet aussi, mais avec un ancrage plus épais, quoi. Moins fin. C'est quand même moins fin que du Declan Chalvet. Voilà, un ancrage un peu plus brouillon.
Mais
c'est sympa, hein, c'est sympa.
Ça reste, ça reste quand même agréable à regarder.
C'est sympa. Et puis Jordi Belair reste à la couleur, donc il y a quand même une certaine unité visuelle. Donc voilà, ça reste assez joli. Et puis il y a des jeux sur la mise en page, sur des cases qui sont des onomatopées où on voit, ou qui sont en même temps des cases, etc. Enfin, il y a des choses sympas.
Il y a des choses à voir, graphiquement. Ouais, bon, ok.
Oui,
c'est à noter qu'ils y croient parce que ils l'ont mis aussi cette preview dans le Rocket Raccoon dans la version papier. Donc voilà, ils mettent de la
rare, c'est
vraiment pour.
C'est très rare chez Marvel.
Ce titre.
DC fait ça tout le temps, mais Marvel, je les vois rarement mettre des previews. Donc voilà, check it.
On passe à la suite, on passe à She-Hulk numéro 7, toujours cette série de Charles Soule au scénario, Javier Pulido est au dessin ainsi qu'à l'ancrage. Alors, on a fini l'histoire avec le fameux dossier bleu, on va passer sur autre chose, un épisode un peu plus léger, un peu plus fun. Et on va revenir sur cette espèce de bâtiment dans lequel habite She-Hulk, qui est... un espèce de bâtiment alloué pour les gens différents, les gens qui n'arrivent pas à trouver d'endroits pour faire leurs expériences, parce que soit ce sont des mutants et que personne les veut, soit parce que les polices d'assurance ne veulent pas les couvrir. Et bien là, c'est une paire de scientifiques qui a inventé un moyen de rétrécir les choses. Oui, ça vous rappelle quelque chose chez Marvel, c'est normal. Mais il ne s'agit pas des particules PIM, évidemment, il ne s'agit pas d'encre PIM. Et cette paire de scientifiques décide de vendre cette idée de rétrécir les objets, notamment pour tout ce qui est transport, réduire les frais de port, permettre d'envoyer plus de marchandises. Enfin, ils y voient pas mal d'applications pratiques. Mais le problème, c'est que le scientifique qui veut vendre cette idée a besoin de l'accord de son partenaire qui a disparu, car il refuse de vendre à l'acheteur qui a voulu cette idée. She-Hulk et L4 vont donc essayer de partir rechercher le scientifique disparu, scientifique qui a donc décidé de se rétrécir et à qui on fait appel quand il s'agit d'une aventure où on se rétrécit, bien sûr à Hank Pym qui fait un gros caméo dans cet épisode, enfin un gros caméo qui est carrément la guest star de cet épisode. Et du coup, eh bien, on va voir Chéri, j'ai rétréci les gosses all over again dans cet épisode, puisqu'ils vont être dans un jardin à affronter des espèces de bah, des fourmis évidemment, puisqu'il s'agit de Ant-Man, Hank Pym, hein, mais aussi des coccinelles, des oiseaux. Enfin, voilà. Vous avez aimé Chéri, j'ai rétréci les gosses, vous serez à la maison avec cet épisode. C'est vraiment super fun, encore une fois, un épisode très sympa, que graphiquement avec bah, voilà le style inimitable de Javier Pulido, qui correspond très bien à cette série complètement décalée de She-Hulk. Néanmoins, les relations entre les personnages avancent, notamment les relations entre She-Hulk et Hellcat. Elles ont des petites frictions, etc., qui avancent. Et surtout, on va savoir qui est ce fameux acheteur de cette nouvelle idée scientifique de rétrécir les choses, ou en tout cas de cette nouvelle manière de le faire. Et bah, petit retournement sympathique, petit retournement de situation sympa, pour une histoire qui n'a vraiment pas grande prétention, à part être juste une histoire d'aventure bien fun, quoi. L'histoire va, enfin, le numéro va se conclure avec l'arrivée d'un personnage bien connu. Un personnage bien connu chez Marvel, puisqu'il porte la bannière étoilée. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que c'est facile à deviner comme ça. Qui va débarquer pour demander des conseils légaux à She-Hulk. Et Charles Soule a pris en compte la continuité. Voilà, vous faites 1 plus 1, je vais pas le spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu les épisodes de cette série. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas, d'avoir vraiment un bon moyen de voir la continuité Marvel en action dans une série, certes plus mineure, malheureusement, alors que des séries majeures n'en font pas mention, n'est-ce pas, Jonathan Hickman ? Voilà. Donc, bah, coup de cœur pour moi pour cet épisode, coup de cœur de la semaine pour ce She-Hulk numéro 7, parce que ça m'a vraiment fait marrer, c'était fun, c'était bien frais, les dessins sont toujours très beaux. Bonne mise en page, bon déroulement de l'histoire aussi, hein, écrit par Charles Soule.
J'ai voilà, juste une petite question, moi. C'est, oui je suis étonné qu'elle ait fait appel à Hank Pym et pas à Scott Lang, puisqu'ils avaient fait équipe dans la future fondation, enfin dans les FF. Et,
parce que Hank Pym est l'inventeur des Pym particules.
D'accord, donc c'était vraiment... elle voulait l'inventeur.
Voilà, je pense que c'est pour ça, ouais, ouais. Alors, il y a aussi d'autres mentions. Alors, il n'y a aucune mention qui est faite à Scott Lang, par contre, il y a des mentions à l'autre Ant-Man, Eric O'Grady. Et au fait qu'il ne soit pas très très aimé dans la communauté super-héroïque. Hein. Je vous laisse découvrir ça en tout cas dans le comic. C'est vraiment vraiment super fun. Moi j'adore cette série. Vraiment je suis un gros gros fan. J'espère qu'elle va continuer. J'espère vraiment qu'elle va continuer. On entend toujours parler de rumeurs d'annulation malheureusement dû à ces chiffres de vente.
Ça tient pour l'instant.
Pour le moment ça tient. J'espère que ça va se maintenir comme ça. C'est vraiment une très très bonne série. Très très bien écrite. Donc gros bail et coup de cœur de la semaine pour moi pour ce She-Hulk numéro 7. Nous allons repartir maintenant dans les étoiles, puisqu'il s'agit de Legendary Star-Lord numéro 2. Alors, est-ce que ce deuxième épisode de la série, qui pour ma part ne m'avait pas convaincu lors de son premier épisode, va être mieux et va pouvoir être un concurrent direct à Rocket Raccoon et capitaliser à mort sur la franchise Gardien, Bruno ?
Alors,
que de questions, que
oui,
de questions.
Oui, beaucoup de questions, et moi j'ai bien apprécié ce numéro 2. Alors, c'est écrit par Sam Humphries avec des dessins de Paco Medina. Alors en fait, vous allez lire un comic Star Wars presque. C'est bourré de références à Star Wars. Star-Lord est écrit complètement comme si c'était Han Solo. Alors au niveau de l'histoire, ça reprend juste après la fin du premier où on avait quand même eu cette surprise où en fait il apprenait qu'il avait une demi-sœur. Et cette demi-sœur en fait était là pour le capturer, pour le livrer en fait à un chasseur de primes, parce qu'il y avait quand même une prime qui était sur la tête de Star-Lord, donc elle fait un peu la connasse, quoi, et elle le capture, et en fait, tout ça pour pouvoir avoir de la thune, parce que comme l'Empire de Spartax, à cause de ce qui s'est passé précédemment dans les Gardiens de la Galaxie et compagnie, bah, ils se trouvent dans une grosse déconfiture, ils ont besoin d'argent pour pouvoir justement survivre, et du coup, en tant que protectrice de Spartax, elle a besoin de l'argent, même s'il s'agit de trahir son demi-frère. Et comme ils peuvent pas se piffrer, ça passe. Donc après,
est-ce qu'elle s'appelle Star Lady quand même ?
Elle s'appelle pas Star Lady. Elle s'appelle, j'ai oublié. Je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Mais elle est sympathique. Mais elle a quand même aussi quelques petits soucis puisqu'elle n'était pas spécialement appréciée de son peuple puisqu'elle sait elle est aussi bâtarde en fait. Donc elle le dit elle-même. Donc c'était un peu compliqué pour elle de vivre auprès de son père. Donc elle a beaucoup de choses à prouver. Et en fait, Toute l'histoire là va se passer, ça va être un peu comme dans Rocket Raccoon, avec une histoire de, ils vont essayer de tenter, enfin le Star-Lord va tenter de s'échapper de cette planète un petit peu bizarroïde sur laquelle se trouve le chef des chasseurs de primes, donc qui doit remettre de l'argent à la demi-sœur de Star-Lord. Pas mal d'action, un petit peu d'humour, un petit peu de retournement de situation, des dessins de Paco Medina que je trouve vraiment très propres, c'est très solide. Voilà, après ça fait un peu ressucer de Star Wars par moment, hein, surtout concernant la nature de la planète par exemple. Mais c'est assez sympathique et le personnage de la demi-sœur est, il y a du potentiel pour la suite des histoires. Et enfin, on a la révélation sur qui est le méchant qui depuis le premier numéro fait chier Star-Lord. Donc ça avance bien. Donc c'est divertissant, c'est pas non plus du grand grand comics, mais ça fait le job et voilà. Donc pour moi c'est un petit bail.
Bien, nous allons passer à la suite. Il s'agit d'Original Sin Hulk versus Iron Man numéro 4, alias Original Sin 3.4. C'est la fin de cette petite mini-série qu'on pourrait considérer comme une mini-série tie-in et qui revient sur la création de Hulk et les implications qu'a eu Tony Stark lors de cette création. Il s'agit d'une parenthèse écrite par Mark Waid et Kieron Gillen, qui sont tous les deux respectivement, qui en tout cas pour Mark Waid, qui étaient respectivement les scénaristes en chef de chacune des séries. Mark Waid étant sur Hulk, Kieron Gillen étant sur Iron Man. Mark Waid est depuis parti de la série et la série de Kieron Gillen et Iron Man est en pause actuellement. Ce script-là est de Kieron Gillen. En effet, il s'agit plus d'un numéro centré sur Iron Man que sur Hulk. Luke Ross est au dessin ainsi qu'à l'ancrage, et c'est donc l'affrontement final entre un Hulk intelligent, si on peut dire, puisqu'avec la formule Extremis qu'il a modifié un petit peu, il arrive à garder son intellect tout en étant Hulk, et ça fait de lui en tout cas un Hulk très retors, très malin, qui en plus est extrêmement énervé d'apprendre ce que lui a fait Tony Stark. Et puis il y a un Tony Stark qui se fait défoncer et qui va devoir essayer de puiser dans ses derniers retranchements pour essayer de ne pas mourir, tout simplement. On va avoir enfin les fameuses réponses à toutes ces questions que l'on se pose. Quelle a été l'implication d'Iron Man dans la création de Hulk? Qu'a-t-il trafiqué dans la bombe gamma? Et pourquoi se sent-il responsable de la création de Hulk à ce point? Et puis surtout, qu'avait-il vu à la fin de ce troisième épisode où il disait « Mon Dieu, Tony, je suis désolé ». Voilà. Je vais
non,
pas vous le
mon
révéler.
Dieu, Bruce.
Oui, oui, mon Dieu, Tony, pardon. Oui, mon Dieu, Bruce. Oui, le mec se parle à lui-même.
Bon, c'est pas étonnant hein, pour Tony Stark.
Oui, ce serait pas étonnant. Ouais, mais je dois avouer que j'étais un petit peu déçu de cette révélation. Je ne vais pas vous la faire ici, évidemment. Je ne vais pas vous spoiler l'épisode. J'ai été un petit peu déçu. Alors oui, Tony a eu... à jouer avec la bombe gamma, enfin jouer. En tout cas, il a trafiqué la bombe gamma. Ce que l'on va apprendre, c'est que ce qu'il a fait a aussi aidé quelque part. Je vous dirai pas pourquoi, hein, je vous laisserai vraiment découvrir ça à l'intérieur du comic. Mais j'ai trouvé la chose un petit peu facile, en fait. Ça partait vraiment bien et je suis presque un petit peu déçu par cette conclusion. Parce que surtout qu'on nous promettait que à l'avenir les relations entre Tony Stark et Bruce Banner seraient à jamais changées, etc. Ben je vois pas ce qui change là. Je veux dire, c'est limite. Bon, ils se quittent. Il y en a un qui part de son côté et l'autre qui part de l'autre. Mais enfin, ils sont pas. Voilà, j'ai pas l'impression qu'ils se détestent au moment où ils se quittent dans le comic. Donc je suis un petit peu déçu quand même. J'ai trouvé ça un peu léger sur la fin, malheureusement. Alors que bah, c'est peut-être moi aussi qui en attendais beaucoup parce que jusqu'à présent les trois premiers épisodes étaient vraiment intéressants, alors que Flo vient de nous partager une news sur notre petit chat interne que je n'avais
oui,
pas
bah,
vu.
C'est vieux, enfin ça a 3 semaines, hein. Mais
oui, mais en même temps pas de weekly news depuis un mois.
On n'a pas fait de weekly news, oui. Donc c'est pas Iron Man n'est pas en hiatus, hein, ça va être annulé. Je sais pas si c'est annulé tout de suite ou il y a encore peut-être un numéro, je ne sais pas. Mais ça sera rebooté sous le nom de Superior Iron Man avec Tom Taylor et Ildiray Cynar.
Alors Tom Taylor, c'est une très bonne nouvelle. Superior Iron Man, c'est un nom qui pue.
Oui, ça pue, oui.
Putain, mais Marvel a vraiment pas d'idée, quoi. C'est incroyable.
Où Tony Stark, en fait, est devenu
un connard.
Un connard égocentrique, en fait. Il a laissé sa vraie nature prendre le pas et c'est devenu un peu un connard.
Bah. En tout cas, ce voilà. ne sera pas avec cette mini-série que ce sera le cas. Enfin, je veux dire, si on nous promettait des grosses choses, là, honnêtement, c'est la mini est bonne, l'idée est, de départ est pas mal, la fin est un petit peu décevante, quoi. C'est un pétard mouillé qui, ne, pour moi, ne change pas grand-chose.
Voilà. Alors, je vais faire mon Mister René Bunny, mais est-ce que c'est pas finalement comme que ce sera Original Sin finalement, on nous promet plein de choses et puis finalement prout quoi.
C'est possible. J'espère en tout cas que ce ne sera pas annonciateur de la fin d'Original Sin parce que enfin ça va vraiment me décevoir à mort quoi. Déjà que je commence à être déçu par Original Sin, le dernier épisode que j'avais lu m'avait franchement fait chier. Parce que je trouve qu'il s'y passait rien du tout et que les deux derniers épisodes auraient pu être réunis en un seul. J'espère que cette fin un peu décevante de cette mini Hulk versus Iron Man ne sera pas l'image de la fin d'Original Sin.
Parce que plus ça avance, moins il y a de supporters d'Original Sin en fait.
Très 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 belle imitation en tout cas.
Au final, il y aura plus que Bruno qui va tenir Original Sin.
Bruno et les univers condamnés d'avance. En tout cas, pour moi, c'est...
Mais oui, c'est pour faire la transition, c'est ça ?
C'est exactement, j'annonçais ma transition, en fait. Donc, pour moi, ce sera, malheureusement, si je dois juger le numéro, ce n'est qu'un check-it de par cette déception. Après, je dis, c'est peut-être moi qui en attendais trop. Mais la mini, dans l'ensemble, est quand même vraiment sympathique. Donc, sur l'ensemble de la mini, ce serait un petit bail, en tout cas. Et puis les dessins du Cross sont vraiment sympas. Là, franchement, cet épisode, il s'est vraiment déchiré. On a 2-3 pages avec Hulk qui sont vraiment magistrales. Et donc, justement, les univers condamnés, on y revient, Bruno, puisque tu vas nous parler d'Ultimate Spider-Man Miles Morales numéro 4. Vous le mettez dans le bon sens, j'en ai rien à foutre.
Et c'est écrit par notre ami Brian Michael Bendis, avec des dessins de David Marquez, toujours aussi bon.
J'en ai 2 fois plus rien à foutre, vu que c'est écrit par lui.
Marquez, il est tellement bon, voilà. Donc un numéro excellent, très rythmé, beaucoup d'action. Alors c'est en plus un parallèle complet avec la fin de la première période Ultimate Spider-Man, puisqu'on a droit à une confrontation entre Norman Osborn, mode bouffon vert très énervé, contre Miles Morales devant l'ancienne maison de Peter Parker, là où Peter Parker était mort justement. Et donc là on a droit à une scène d'action très très réussie. Mais le tout se conclut avec le retour, ça fait maintenant plus de 2 numéros qu'on a ça qui était un petit peu en fil rouge, le retour du vrai Peter Parker qui dit qu'il n'est pas mort, qu'il avait été obligé de se cacher, et qui apparaît donc devant Norman. Donc là il y a un team-up entre Peter Parker et Miles Morales qui réussit à mettre un petit peu en déroute Norman. Et du coup, en fait, le monde entier se rend compte que Peter Parker n'était pas mort. Donc voilà, l'histoire est vraiment passionnante. On se demande ce qui est arrivé à Peter, pourquoi il avait fait croire à sa mort. Est-ce que c'est vraiment Peter Parker ? Est-ce que c'est un clone ? On nous a toujours dit que dans l'univers Ultimate, Dead is Dead. Là, ce serait peut-être la première exception d'un personnage soi-disant mort qui revient à la vie.
Sur un univers condamné, on peut faire une exception, quoi. Je veux dire, enfin.
Ouais. Peut-être. Mais en tout cas, ça, mine de rien, ça fait plaisir de retrouver Peter. Ça va avoir des conséquences sans doute très importantes pour la tante May qui est toujours présente, Mary Jane qui découvre ça à la télé. Donc un numéro passionnant, mais qui... en fait, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de lire le 5 pour savoir si on aura des explications. Donc un très bon numéro, un bail pour les personnes qui lisent l'univers Ultimate encore et qui aiment ça, c'est du tout bon.
Pour ceux qui sont encore là, ouais.
Ouais.
Mais au fait, ils prennent des extras en fait dans l'univers Ultimate. Parce que tu nous avais parlé la semaine dernière de Ultimate...
Spider-Man. Avec Peter Parker.
Vous faisaient n'importe quoi. Là ils font revenir Peter Parker. Galactipus, c'est un peu, ils sont tous en train de chanter, on va tous crever.
Puis maintenant il y a prescription, c'était la semaine dernière, mais dans Ultimate FF de la semaine dernière, le truc qui m'avait fait bondir, c'est quand même qu'on a Susan Storm qui fait une opération, c'est-à-dire qu'elle extrait le sperme de Reed Richards pour avoir un enfant avec lui, sans avoir de relation sexuelle, quoi. Enfin, lui coupe les couilles, quoi.
Oui, c'est, donc c'est vraiment n'importe nawak, quoi. Ils savent qu'ils vont, ils savent que l'apocalypse les attend. Donc ils font la fête tout le temps.
C'est n'importe quoi, mais en même temps je kiffe quoi. Et effectivement ça sent un peu.
Bah, dès qu'on parle de couper les couilles, toi
le
tu.
Le chant du cygne. Non, je ne kiffe pas. J'étais un peu dégoûté pour le pauvre Reed Richards, mais en même temps il l'avait bien mérité. Mais voilà, donc c'est très très bien. Et à noter qu'en France, on va avoir un nouveau magazine Ultimate qui va commencer, je crois au mois d'octobre ou de novembre, qui reviendra au numéro 1 et qui va justement publier les séries Ultimate FF. Ultimate Miles Morales Spider-Man et Ultimate New Ultimate je sais pas quoi. Voilà. Qui durera 3 ou 4 numéros mais voilà, au moins il y aura une publication française pour ces épisodes.
New Ultimates de l'enfer, ouais.
Ouais. C'est ça.
Allez, on va passer à notre partie TP pour terminer sur notre partie Marvel. Au programme des TP sortis cette semaine et qui ne seront pas publiés en français ou en tout cas pas dans l'immédiat, c'est pour ça qu'on en parle ici, vous avez le Fury Max Hardcover My War Gone By qui sort cette semaine. C'est une série de Garth Ennis avec Goran Parlov au dessin. $35 pour ce gros bouquin qui va reprendre les 13 épisodes de la série. Une série que Sam avait particulièrement appréciée de mémoire.
Tout à fait, mais c'est marrant parce que c'est le seul qui est sorti en FF, en VF, du
Ça y est, ça t'a perturbé, tu parles de FF, ça y est. Nous avons aussi en version hardcover Thanos Infinity Revelation, l'OGN, qui est sorti cette semaine de Jim Starlin, que je n'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement.
Ah, il faut du temps quand émission. Même pour le lire.
Non, mais c'est surtout que oui, j'ai bossé toute la journée, donc c'était mort. Quoi. Mais que je vais essayer de lire le plus rapidement possible, c'est au prix de $25. Ne passez pas à côté si vous aimez Jim Starlin et si vous aimez Thanos.
Avec la version digitale incluse.
Complete Collection TPB de Uncanny X-Force par Rick Remender, le premier volume qui va reprendre les épisodes 1 à 19 de la série de 2010, ainsi que le 5.1 et du matériel de Wolverine Road to Hell numéro 1. C'est au prix de $40 pour et les fans.
C'est obligatoire, c'est obligatoire de l'acheter, c'est tout.
Non, pour les fans de cette franchise, parce qu'il y en a qui n'aiment pas cette franchise où les X-Men tuent, etc. Mais ça reste quand même néanmoins assez important à lire si on veut aussi suivre Uncanny Avengers, puisque des pistes y étaient déjà disséminées. Enfin, si vous êtes vraiment très riche et que vous avez envie de donner votre argent, pas à des gens qui ont un super Tipeee avec un super podcast, mais que vous avez envie de dépenser en comics, eh bien vous avez le Marvel's Platinum Edition Slipcase Hardcover qui est sorti cette semaine au prix de $200. Voilà. Un format donc très très grand, hein, un peu comme avait fait les, comme ils avaient déjà fait chez Marvel avec les Adamantium Collection, des très 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 grands bouquins, qui va reprendre cette mini-série qui s'appelait Marvel's, qui était sortie dans le début des années 90, enfin milieu des années 90 dirons-nous, et qui va reprendre donc les épisodes 0 à 4, une série de Kurt Busiek et Alex Ross, et qui va dépeindre l'ensemble de l'univers Marvel. Dépeindre, jeu de mots, Alex Ross.
Ouais, mais c'est un peu cher quand même. Mmh. Ouais.
Ah oui, c'est cher. Oui, c'est cher. C'est clair. C'est très cher. Mais voilà, quand on aime, eh bien, on aime. Voilà, c'est tout pour les TP sortis cette semaine chez Marvel. On va passer maintenant à notre partie indé. On démarre avec une nouvelle série cette semaine. Une série écrite par Peter Milligan. Il s'agit de Terminal Hero.
Oui, et c'est dessiné par Piotr Kowalski, qu'on voit décidément un petit peu partout, que ce soit chez Marvel, chez Image... et compagnie. C'est une série dont nous avait parlé Peter Milligan au LCF il y a 2 ans, je crois, puisqu'il nous avait parlé d'une série qu'il allait faire en creator owned où il y aurait du sexe, de la drogue, et que ce serait un petit peu rock'n'roll. On va suivre un personnage qui, dans les premières pages du comics, ce personnage, il fait des études de médecine, il apprend qu'il a une tumeur vraiment très spécial du cerveau, quelque chose de complètement inopérable et qui fait qu'il n'aura plus que quelques mois à vivre avant de disparaître. Et donc ce personnage qui est quand même très un petit peu dépressif après avoir appris ça, du coup on le voit essayer de se demander ce qu'il va pouvoir faire de ses derniers mois avant de mourir. Et il a son pote qui est chercheur qui en fait a vu passer sur internet des infos comme quoi il y avait un docteur un peu bizarre qui avait fait des recherches à un moment dans les quelques années auparavant et qui avait peut-être trouvé un moyen de soigner ce type de tumeur, mais que pour ça il faut qu'il synthétise cette drogue de façon un petit peu cachée dans leur laboratoire. Donc ils vont essayer de faire ça, ils vont se dire tant qu'à faire, on n'a rien à perdre, on va essayer de faire ça. Et il se trouve que bah ça marche. Et alors là du coup quand j'ai vu le comics, j'ai repensé au film que j'ai vu hier soir. Alors petite aparté, j'ai vu un des pires films de l'année hier soir au cinéma qui s'appelle Lucy, le nouveau film de Luc Besson, où le personnage développe petit à petit la capacité d'accéder à plus de 20% de son cerveau, voilà, jusqu'à atteindre 100% de l'utilisation totale de son cerveau. Et on se retrouve sur un pitch assez similaire, dans le sens où le héros du comics, là. Bah il commence à avoir des pouvoirs qui se manifestent. Il devient plus intelligent, il a l'air de pouvoir modifier la réalité. Et il a des visions, des choses assez trash. Et en plus, il laisse un peu libre cours à ses pulsions, mine de rien, puisqu'il va découvrir que son pote, en fait, s'est peut-être foutu de sa gueule. Il a des envies de sexe, et du coup, c'est un petit peu comme dans le film qu'avait fait Verhoeven, avec le gars qui devenait invisible, là, qui, du coup, avec tous ses pouvoirs,
Holoman.
Holoman, voilà, c'est ça. Il se dit, je vais pouvoir utiliser ses pouvoirs pour des fins personnelles. Donc là, ça me permet d'avoir des petites scènes avec un petit peu de sexe, des tétons apparents et compagnie. Donc c'est plutôt sympathique. Et
Une jolie levrette prostituale.
exactement, exactement. Mais tout ça va partir en plus dans une sorte de complot, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a le gouvernement est au courant en fait des effets secondaires de cette drogue, puisque le fameux docteur qui avait créé cette drogue, voilà, dont ils avaient appris l'existence sur Internet, avait peut-être lui aussi développé des pouvoirs auparavant. Donc c'est bien écrit, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien les dessins de Kowalski, ça a l'air d'être un dessinateur qui est quand même assez rapide, hein, parce qu'il est quand même, il est chez Boom, il est chez Image, il est chez Marvel, il est partout. Et ça reste quand même assez bon. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça c'est efficace. Et le scénar, bah voilà, c'est rigolo, c'est mature, mature, quoi. Donc
Je vais quand même donner mon avis parce que j'avais commencé à le lire. Je l'ai fini en lecture en diagonale.
ouais.
J'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé ça
Là.
chiant. Voilà.
Ouais.
Chiant.
Non.
Déjà vu.
Moi, je trouvais que ça allait
Mais
vite quand
bon,
même.
après, le problème du déjà vu, voilà, c'est un peu partout pareil. Mais là, ça m'a vraiment semblé déjà vu. Et puis voilà, j'ai trouvé ça inintéressant. Et trash pour être trash.
Après, moi, ce que je trouve pas mal, c'est que
Mais j'ai fini en diagonale, j'ai
ça va
fini en
vite.
diagonale, hein, je l'annonce. Hein.
C'est que en un numéro, en fait, on arrive déjà à un état où le personnage a des pouvoirs, où il est recherché par le gouvernement, et voilà, ça tarde pas, ça. C'est quand même assez plaisant du coup la lecture. Après, c'est loin d'être le comic de la semaine, mais
Je suis pas un grand fan de Milligan en général, hein, quand même.
Bah,
Et je
ces
dois avouer
derniers
que
temps,
là.
c'était pas terrible ce qu'il avait fait, mais là, c'est peut-être
Quoi?
quelque
T'as
chose.
pas lu? Quoi? All New Doupe, t'as pas aimé?
Sauf au New
Je
Doupe, je
n'ai
l'ai pas
même
lu
pas
moi.
ouvert.
J'ai
Je n'ai
pas
même
encore
pas
commencé All
ouvert.
New Doupe. Mais ça avait l'air pas
Le
mal par
titre,
contre.
c'est le titre le moins vendu de chez Marvel. Je crois
Ouais.
qu'il fait 7000 copies. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tellement ça se vend pas.
Ouais, mais c'est une mini, donc les pertes étaient déjà absorbées, quoi.
Par contre, c'est 10 000 fois mieux que ce fameux film-là, Lucy, que je vous invite à ne surtout pas aller voir, parce que c'est vraiment
Je vous invite à ne pas aller le voir.
à de la bonne grosse daube qui passerait sur la TNT après 23 h. Même là, ce serait difficile à regarder. Donc voilà. Donc pour moi, ce comic, c'est un check-it. Très jolie couverture de Jelly, par contre, vraiment vraiment très belle, j'aime bien. Voilà, mais c'est pas non plus hyper renversant.
Très bien, nous allons continuer dans notre partie indé avec le deuxième numéro de Spread, une série qui m'avait fait une grande impression aussi lors de son premier épisode le mois
Tout
dernier.
à fait.
Série de Justin Jordan avec des dessins de Kyle Stram. Nous sommes dans un monde post-apo où il y a une espèce d'invasion de créatures un peu lovecraftiennes, avec des bouches, des dents, des yeux et surtout beaucoup de dents. Qui découpe un peu tout et on va suivre un personnage principal qui est le clone de Wolverine qui s'appelle No.
Et qui dit
No
juste
parce qu'il
no.
voilà qui parce qu'il dit vraiment pas grand-chose et le mot qu'il dit plus c'est No. Il est assez monosyllabique comme personnage. Et eh bien il recueille un bébé dans le premier épisode qui s'appelle Hope. Et ce bébé avec ses sécrétions et notamment
On a
sa
déjà fait
salive, sa
la blague
sueur,
sur
etc.
câble, hein, je crois. Il faut qu'on
Oui, bah oui,
arrête.
on l'avait faite le mois dernier.
Oh
Ouais.
merde.
Avec ses sécrétions, va pouvoir permettre de détruire le spread. Alors, dans ce deuxième épisode, on ouvre avec un personnage que l'on va voir qui est ni plus ni moins qu'une représentation de chanteur de glam metal. C'est vraiment le chanteur de glam par excellence, totalement imberbe du torse, une chevelure blonde longue, torse-poil sous son imper, et qui s'adresse aux foules complètement enragées, mais super balèze. J'avais l'impression de lire un manga en lisant ça, honnêtement.
Ouais.
Je suis le seul à l'avoir lu ?
Non, tu l'as lu, je l'ai lu aussi, effectivement. Je peux voir un petit peu le parallèle avec le manga. À noter qu'il y, y avait un gros côté Mad Max aussi, avec justement cette foule de dégénérés là qui regarde ce,
oui.
ce chef là, voilà, qui a l'air d'être un peu genre le chef d'un culte, quoi, limite d'une secte. Mais effectivement, il y a ce côté glam qui ressort pas mal.
Et de son, bah alors on va voir que ce mec-là est quand même super balèze. Hein.
Ah,
c'est
ouais,
clairement
ouais.
L'antagoniste. On nous le place en tout cas comme ça pour les prochains mois à venir. Et puis, les prochains mois à venir, tu vois, la superbe répétition, quoi. Et de son côté, No va trouver, va devoir trouver un moyen de nourrir ce bébé, Hope, parce que bah, il a pas de bouffe, et puis c'est un bébé. Donc un bébé, ça ne mange pas n'importe quoi, ça, bah, jusqu'à preuve du contraire, ça mange pas de neige, malheureusement, parce qu'il y avait de quoi la nourrir, mais non, non, ça mange quelque chose de blanc, mais pas de la neige. Et il a trouvé un moyen super dégueulasse de la nourrir. J'ai trouvé ça hardcore. Bah bon, après, c'est... C'est
en même
nature,
temps, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur une meuf les seins à l'air qui a du lait qui se projette
de
partout, voilà quoi.
C'est du hentai quoi. C'est... ah mais c'est hardcore. Enfin, je veux dire, ce comique est hardcore. Déjà l'orientation un peu Lovecraftienne, un petit peu à la Cthulhu, des espèces de monstres.
Tous les personnages sont moches. Hein. Je veux dire, ils sont tous déformés, ils ont tous des sortes de dégénérescence. Enfin, mis à part effectivement ce leader peut-être un peu glam, et puis le héros qui a l'air un peu la tête normale. Tous les autres personnages.
Ouais, il a la gueule de Wolverine. Je suis désolé, il est un peu déformé quoi.
Mais là, du coup, on rencontre un futur personnage qui sera, je pense, important par la suite. Cette femme, voilà, avec les seins à l'air et qui a plein de lait dans ses seins. Et qui a des petits problèmes quand même psychologiques.
Ah oui, oui, oui. Bon, on a toujours cette narration, en fait, par le bébé elle-même. Mmh. Alors, je sais pas si tu as lu la postface
de Justin
Jordan, où, il revient un peu sur les critiques qu'il a reçues lors du premier numéro, qui était que tout le monde le comparait à Saga.
Ouais, la narration.
Au niveau de la narration, puisque comme dans Saga, c'est le bébé qui raconte l'histoire. Mmh. Alors il dit que il a accouché de cette idée en 2012. Voilà, c'était une idée qu'il y a depuis longtemps. Un projet indé se fait pas en deux mois. Mais en même temps, ça ne le dérange pas d'être comparé à la deuxième série la plus vendue dans l'indé.
Ouais.
Donc voilà. Et l'autre chose à laquelle on va comparer, c'est The Last of Us. Et The Last of Us est un jeu qu'il a aussi adoré et que ça ne le dérange pas d'être comparé à ça, même s'il avoue clairement ne pas s'en être inspiré. Il donne d'ailleurs les sources des choses qui l'ont un petit peu inspiré.
Ah oui, clairement, hein, il indique qu'il a aucune honte. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'il aime et voilà, il dit que il s'est inspiré de The Thing, de Lone Wolf and Cub, que
ouais, c'est, j'allais dire, ouais, ça,
il y a Mad Max, il y a du Massacre à la tronçonneuse. Et voilà,
c'est ce qu'il promet dans le prochain épisode, une inspiration de Massacre à la tronçonneuse numéro 2 et Mad Max.
Voilà. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas de honte. Effectivement, on se nourrit tous de ce qu'on voit, de ce qu'on lit et.
Bah, comme il le dit très bien. On est la somme de nos influences, tout simplement. Et ce que l'on crée va être la somme de nos influences.
Mais le fait qu'on puisse comparer ça à Saga au niveau de la narration, moi, ça m'a personnellement pas gêné. Parce qu'il est quand même suffisamment différent au niveau du ton.
Oui, voilà. On est obligé d'y penser. Saga étant un si gros phénomène, voilà, on a une histoire, on va suivre un bébé dans un monde assez étrange qui nous raconte l'histoire. Effectivement, on pense à Saga, mais de là à dire qu'il s'est inspiré de Saga, faut quand même, je trouve que c'est poussé un peu, quoi. Et puis Justin Jordan, je pense, n'a plus grand-chose à prouver aujourd'hui. Je veux dire, c'est devenu déjà un scénariste vraiment connu dans le milieu de l'indé et même maintenant chez les Big Two, quoi.
Ouais, carrément. Très bonne lecture.
Tu voulais dire quelque chose, Flo, peut-être ? J'ai l'impression que je t'avais coupé, peut-être.
Ouais, non, c'était pour rebondir sur Lone Wolf and Cub. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il aime bien ces thèmes-là parce que, bon, déjà, avec Luther Strode, il aime bien les trucs qui pètent, quoi. Mais même ce qu'il fait sur New Guardians, il y a des trucs assez trash et assez gore, hein. L'arc en cours de New Guardians, je le conseille d'ailleurs, il y a un côté un peu alien, un peu Hellraiser, un peu comme ça, qui est vraiment sympa d'ailleurs. Et il aime bien ces trucs un peu horrifiques, je pense.
Ouais, j'avais oublié qu'il était sur New Guardians, tu vois.
Ouais. Ah, mais c'est sympa comme titre, hein, New Guardians. C'est vraiment sympa.
En tout cas, très bonne série encore que ce spread. J'aime beaucoup ce côté un peu foufou. Moi, me plaît en tout cas.
Ouais, ça confirme la bonne impression du premier numéro. Vraiment. Ouais.
une série bien déjantée, bien post-apo. Enfin, faites-vous plaisir, quoi. Ouais. N'hésitez pas à découvrir ce produit de chez Image.
Un bail.
Bail aussi. On passe à toi, Flo, qui va nous parler de l'univers Valiant. Tu vas nous faire un petit point sur... on nous l'avait demandé, tu n'étais pas là la semaine dernière, tu ne pouvais pas être là, malheureusement.
Valiant avec Flo.
De nous parler du XO Manowar 27 et peut-être un petit point aussi sur Armor Hunters 2, mais très très rapidement, s'il te plaît.
Oui, Armor Hunters 2, je crois qu'il y avait eu un... Il avait été chroniqué par Mister
oui.
and Ebony.
Ouais,
ouais.
Oui.
Qui était un très bon numéro, effectivement, qui avançait pas mal... l'intrigue, hein, très très bien. Je vais parler effectivement surtout de XO Manowar qui est sorti la semaine dernière, qui est donc la suite de l'arc tie-in qui nous raconte le passé des Armor Hunters, de cette équipe de Armor Hunters. Et donc on avait laissé au 26 où Rebo, donc qui est un petit peu le leader des Armor Hunters actuellement dans le crossover, dans l'event, et Malgam, son ami et camarade, qui est aussi dans Armor Hunters.
Est-ce que c'est son prénom?
Non, c'est juste Malgam. Et non, bravo, bravo, désolé. Je vais reprendre, là, il faut que je reprenne comme ça.
Ah oui, à l'arrache.
Tout sec, putain, c'est compliqué. Et donc, il se faisait recruter par un général pour dire, voilà, vous avez été confronté à une armure, nous, on est là pour les détruire, venez nous voir. Eux, ils se sont dit, bon, c'est des mercenaires à la base, et ils se disent, bon, le marché est bas, ça fait un truc un peu sécurisant, allons-y. Tu parles. Donc ils rejoignent en fait une armée d'Armor Hunters. Donc je sais pas comment, enfin s'ils ont été exterminés entre temps, mais ce général en tout cas dirige voilà vraiment un contingent de soldats spéciaux de toute race alien, spécialistes dans l'extermination d'armure. Sachant qu'il faut une armée entière hein, pour bouffer une armure, évidemment. Avec notamment plusieurs vaisseaux comme Ginger, le gros vaisseau look chelou qu'il y a dans Armor Hunters actuellement. Donc là, il y en a plusieurs de différentes couleurs et tout. Et donc, effectivement, Rebo et Amalgam vont rencontrer, en gros, leurs futurs compagnons qu'on va retrouver dans l'event. Donc Lilith, Quartz et je ne sais plus comment s'appelle la nana qui parle en 0 et en 1. Donc il va rencontrer c'est pas Binary.
T'as bien tenté, j'allais dire la même chose, tu m'as grillé.
C'est pas Binary, c'est Helix, pardon, Helix. Bon. Et voilà, ils vont être en gros confrontés à une armure et ça sera un petit peu leur première mission sur le terrain contre une armure. Enfin, première en tant qu'Armor Hunters, puisqu'ils avaient déjà été confrontés le mois dernier justement à une armure. Et voilà, et ça va donc ça avance vraiment bien sur comment ils sont formés et tout, et c'est super intéressant si vous aimez Armor Hunters. Là, c'est vraiment super bien parce qu'on s'attache à ces personnages qui sont pourtant les némésis de l'event principal. On comprend leur motivation et on ne sait pas encore ce qui va arriver à ce corps des Armor Hunters, mais s'ils sont plus que effectivement tous les cinq qu'on trouve là dans l'événement principal, c'est qu'il s'est passé quand même des choses assez graves pour eux et on peut comprendre peut-être qu'ils aient la haine contre les armures. Mais donc c'est assez intriguant et j'espère voilà. Et il reste deux numéros tie-in. C'est vraiment intéressant. Voilà,
donc un bail hein, pour toi évidemment.
Ouais, c'était très très bien, très bonne lecture.
Passons à la lecture de la semaine.
Ouais. Harbinger Omegas qui est la mini-série qui conclut en gros le run de Joshua Dysart sur la série Harbinger. Une mini-série en fait qui commence donc j'en avais parlé le mois dernier, enfin il y a quelques semaines du dernier numéro d'Harbinger, le numéro 25, qui se concluait sur les secrets de Toyo Arada ont fuité, les secrets de Project Rising Spirit ont fuité, et il est dans ses derniers tranchements, Toyo Arada. Il est dans ses derniers tranchements, mais n'oublions pas qu'il a toujours des psiotes fidèles. La Harbinger Foundation est toujours complètement fidèle à lui. Et c'est toujours le psiote le plus puissant de la Terre, quand même. C'est toujours un bon gros bourrin. Et en gros, il va balancer sa dernière carte. Et sa dernière carte, c'est juste dirigeant du monde. Je suis le maître du monde. Vous allez arrêter tout mouvement contre moi et vous allez vous soumettre. Voilà. C'est
de toute façon, c'est ce que nous avons prévu de faire.
C'est bien. Là, c'est un petit peu le manuel pour le faire.
Oui, mais enfin voilà, c'est... il nous a piqué l'idée. franchement, je trouve pas ça sympa. Quoi.
Donc, en gros, voilà, c'est vraiment une grosse confrontation, en gros, entre Toyo Harada, la Harbinger Foundation et le reste du monde. Et on sent, le pire, c'est qu'on sent que Harada a les moyens de gagner, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. On se dit, ah, ça y est, Peter Stanchek l'a battu et tout, alors qu'en fait, Peter Stanchek, lui, au contraire, il a perdu ses amis à la fin d'Harbinger, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est seul. Il est seul, il se cache, il est recherché. Donc, c'est... voilà, il est dans une situation très... Il est totalement dépressif. Il se crée des visions, des projections mentales de ses amis pour faire style qu'il vit toujours avec ses amis. Enfin, voilà, il est dans un état déplorable. Mais quand il voit que Toyo Harada est encore passe à l'offensive, bah, il va décider un petit peu de se réveiller. Voilà, on suit aussi les autres Renegades hein, dans leur vie après la série Harbinger, donc c'est assez intéressant. Bon, ce numéro m'a pas déçu, hein, je le disais il y a quelques semaines, ça promettait du lourd, et effectivement c'est vraiment explosif, et le pire c'est que ça se passe en même temps qu'Armor Hunters, et c'est en continuité, puisqu'on assiste aussi à l'explosion de Mexico City, etc. Donc le monde de Valiant en ce moment est un peu secoué de partout. Entre les Armor Hunters et Toyo Harada, c'est vraiment voilà, ça pète de partout. Donc c'est un très très gros bail et ça aurait pu même être mon coup de cœur de la semaine.
En tout cas, voilà, on pourra pas dire qu'il ne se passe rien chez Valiant.
Ah non, là en ce moment ça bouge très très fort. Ouais.
On va passer au coup de cœur de la semaine de Bruno.
Oui. Et c'est Nile Biter. Donc c'est écrit par Joshua Williamson avec des dessins de Mike Anderson. Et toujours vraiment cette histoire de serial killer est vraiment passionnante. Donc pour rappel, en fait le pitch tourne autour d'une ville qui s'appelle Bukaru, où en fait il y a
Banzai.
Ouais oui, bah c'est, tu l'as déjà fait, hein, il me semble, hein, Steve.
Ah non, ça va pas être moi.
Où en fait on a 16 des plus grands serial killers de tous les temps, en fait ils habitent cette ville. Donc il y avait un flic qui enquêtait pour découvrir pourquoi tant de personnes étaient devenues des serial killers dans cette ville, et il pensait avoir trouvé la réponse, et le jour où il allait l'annoncer à son meilleur ami qui était un interrogateur pour l'armée, il l'a eu au téléphone, il dit « Ah, faut que tu me retrouves à Bukaru, faut que je t'explique, j'ai trouvé la solution ». Et bien après, quand son pote arrive à Bukaru, en fait, il a disparu. Et donc, ce fameux personnage donc qui devient le héros du comics, donc Nicolas Finch, va faire équipe avec une flic de Bukaru pour retrouver son meilleur ami. Et il va tomber nez à nez avec les différents serial killers qui habitent cette ville, puisqu'il y en a certains, dont le Nailbiter, qui donne le nom au comics, qui avait pas pu être condamné, malgré quand même beaucoup de choses troublantes vis-à-vis de ce personnage. Il avait été libéré et il n'avait pas été jugé coupable. En plus, il y a une histoire, puisqu'il était quand même l'ex de l'héroïne, la flic de la ville, donc c'est quand même, ça la fout mal, que la flic de la ville ait pu avoir une relation avec un serial killer psychopathe qui bouffe les ongles de ses victimes. Dans ce numéro, l'intrigue avance vraiment beaucoup. On a des révélations un petit peu sur les différents serial killers qui étaient enterrés à Bukaru, puisqu'il y en a quand même plusieurs qui ont décédé depuis leur apparition. Et peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus sur le destin de cette fameuse personne, ce meilleur ami du héros, qui avait trouvé le secret de Bukaru. Il y a toujours cette touche un petit peu, moi je trouve, Twin Peaks, dans le sens où on a des persos vraiment très très bizarres de cette petite ville américaine. Ils ont l'air tous d'avoir des secrets. On a par exemple un personnage qui est le descendant du premier serial killer de Bukaru, qui a ouvert carrément un magasin dans lequel ils vendent des produits dérivés sur tous les serial killers, donc un mec qui est vraiment attiré par l'appât du gain. On y suit aussi des petits losers. Et puis il y a le team-up entre la flic et le héros qui marche assez bien. Il y a pas mal de répondants, il y a un petit peu d'humour. Bref, très bonne lecture, c'est très rythmé. Graphiquement, c'est vraiment du solide, c'est même très très beau. Et toujours aussi passionnant. Donc un bon gros bail et mon coup de cœur de la semaine. Pour l'instant, c'est vraiment un de mes titres, voilà, tendance serial killer polar qui me plaît plus en ce moment.
On va terminer notre partie indé avec la série qui d'habitude est mon coup de cœur et qui cette fois-ci ne le sera pas puisque je l'ai décernée à She-Hulk numéro 7 cette semaine. Il s'agit d'Alex plus Ada qui en est à son numéro 8 sans retard. Bonne série,
c'est beau,
du
ça.
Coup. Oui, bah pour une série des frères Luna, oui, c'est beau. Sarah Vaughan est au scénario ainsi que Jonathan Luna. Elle est aussi au script et Jonathan Luna s'occupe aussi des illustrations ainsi que du lettrage, du design, etc. En gros, il fait tout le reste, quoi. Alors, à la fin de l'épisode 7, on avait déjà un premier game changer pour la série puisque le gouvernement se rendait compte que de plus en plus d'androïdes étaient devenus un petit peu libres, en tout cas essayaient de se libérer et décident d'interdire un peu tous les androïdes et tous les androïdes libres seront abattus à vue. Grosso modo, c'est un peu ce qui est annoncé. Ce qui va bien sûr poser des problèmes à Ada, évidemment puisqu'elle est considérée comme libre, hein, elle a été complètement libérée. Elle n'est plus soumise à sa programmation, mais elle peut penser par elle-même. Et tel nous le montre la couverture avec Alex et Ada qui se désintègrent, eh bien on va assister dans ce numéro à la désintégration de ce couple qui n'en est pas vraiment un, ou qui aimerait bien le devenir, mais qui n'en est pas, et qui va peut-être, avec ce numéro, perdre toutes les chances de le devenir à tout jamais. Comme d'habitude, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement intelligent, ça vous offre toute une série de réflexions intéressantes qui, comme d'habitude, est bien amené. C'est-à-dire qu'on vous dit pas il faut penser comme ça ou faut pas penser comme ça. Les robots libres, c'est bien. Les robots libres, c'est pas bien. C'est à vous de vous faire vos propres opinions en lisant ce comic. On vous apporte des idées de questions. À vous de voir ces questionnements classiques. Hein. C'est ni plus ni moins que de la philo, finalement. Ça reste ça. Même si ça paraît être un gros mot dans un comic, mais non. Ce sont des questions philosophiques. Et à vous de vous faire votre propre réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que font certains personnages? Est-ce que vous êtes plus en phase avec ce que font d'autres personnages? Et c'est ce qui fait pour moi tout le charme de cette série, au-delà du fait que c'est une série de SF. Certes, c'est une série romantique, mais ça reste une série de SF avant tout, avec tout un tas de concepts hyper intéressants et hyper chers à la SF, que j'apprécie de revoir dans les pages d'un comic bien écrit. Alors le design, ça reste le design des frères Luna. Certains détestent ce style un peu digital, presque, je dirais presque un peu manga, mais ce serait un peu poussé, mais ça y ressemble un peu, cette colorisation tout en ton pastel. Certains vont détester, d'autres vont adorer. Moi, je trouve que ça va tout à fait avec le récit. Vraiment, j'adore cette série. Je vous encourage vraiment, vraiment à l'essayer. Ne vous laissez pas arrêter par ce côté fleur bleue, parce que la série est beaucoup plus sombre qu'elle pourrait le laisser le croire si on s'arrête au premier degré de lecture. Voilà. Et cette fin énorme. Chaque épisode a vraiment un cliffhanger qui pourrait changer à tout jamais la série, et c'est ce qui donne encore plus envie d'y revenir au-delà de la très très bonne écriture. Donc vraiment un gros gros bail pour cette série dont je ne cesse de vanter les mérites, et j'espère que vous allez vous y mettre très prochainement tous les deux.
Oui. Oui, je vais m'acheter le TP qui est sorti ce mois-ci, le mois dernier.
La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Vraiment très très bon, quoi. Gros gros bail, évidemment, si vous ne l'aviez pas encore compris. On va terminer avec les TP, justement, les TP 1D de cette semaine. Alors attention, grosse liste de TP, hein. Si vous ne savez pas quoi acheter en comic single, eh bien voilà de quoi dépenser votre argent durement gagné. Avec notamment Archie de Married Life, le 5e TP, 5e volume de cette série Life with Archie, qui vient de s'achever le mois dernier, au prix de $20, et qui compte la vie d'Archie avec 2 histoires bien séparées. Et si il s'était marié avec Betty, et s'il s'était marié avec Véronica, 2 histoires complètement différentes, 2 univers alternatifs que vous avez dans chaque épisode, et c'est écrit par Paul Kupperberg, qui n'est quand même pas un débutant. Et justement, vous avez aussi le Life with Archie graphic novel, qui va revenir sur toute cette fin dont on avait parlé, notamment dans les Weekly News, cette fin d'Archie, cette mort d'Archie qui avait été faite dans la série Life with Archie, c'est au prix de $15. Voilà, du Archie Comics. Finalement une boîte dans laquelle il se passe des choses. Alors que, finalement, on n'y aurait pas vraiment prêté attention au départ. Hein, Bruno?
Oui, tout à fait.
J'attendais que tu rebondisses sur Afterlife with Archie, en fait.
Mais... J'ai pas encore eu le temps de lire le numéro en question, mais... Mais pour c'est la première fois qu'on en a commandé au Comic Shop et ça s'est vendu parce que justement il y avait pas mal de buzz par rapport à cette fin de la série. Enfin, de la
Continuons
mort du
avec.
héros.
Oui, la mort du héros. Et, enfin, une mort finalement alternative, puisqu'il s'agit de mort dans ces deux univers alternatifs où il s'est marié avec Betty et s'est marié avec Véronica. Mais faire mourir une icône à ce point, enfin, voilà, c'est osé et on sent qu'il y a un nouveau chief creative officer chez Archie Comics.
Ouais.
Donc, chez Avatar maintenant, God is Dead, le deuxième TP de cette série, lancé par Jonathan Hickman, et qui est actuellement écrite par Mike Costa, avec les épisodes 7 à 12. C'est $20 le prix de cette de ce deuxième TPB. Pardon.
C'est super cool, God is Dead. C'est n'importe quoi, mais là le numéro qui vient de sortir, c'est le numéro Alpha. On en a pas parlé cette semaine parce que j'ai un petit peu de retard sur les deux trois derniers numéros de God is Dead, mais c'est quand même coécrit par Alan Moore, où il se met directement en scène en tant que représentant ultime de Glicon. Et c'est assez délirant en fait. Hein. J'ai pu le feuilleter et on le voit en tant que en train de faire un spectacle de poupée avec un serpent dans les mains et c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment fun.
Passons à du vieux comique, du comique très culte, très classique. J'avoue pour ma part que je ne l'ai jamais lu et justement avec cette édition, je vais peut-être me le procurer puisque pour $25, vous aurez The Complete Elf Quest volume 1, The Original Quest. Donc tout le run Original Quest en noir et blanc, dans un seul et même bouquin, ça reprend les 20 premiers épisodes de la série, 720 pages, énorme bouquin, pour vraiment pas cher, hein. $25 c'est vraiment pas cher, une série qui voilà est citée par beaucoup comme une série très 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 très, très culte, ça célèbre aussi les 35 ans quand même de cette série. Je sais qu'en tout cas moi je vais me jeter dessus, parce que $25 c'est vraiment pas cher pour découvrir ce monument.
C'est de qui?
De Wendy Pini et Richard Pini.
D'accord. Voilà.
Donc sûrement mari et femme. Une histoire bien sûr totalement heroic fantasy comme son nom l'indique.
Oui.
Ça c'est publié chez Dark Horse, hein, pardon, je voulais le préciser. Chez Dark Horse toujours, Fear Agent TPB volume 5, Eye Against Eye, c'est une réédition parce que le TPB n'est plus trouvable. Ça reprend les épisodes 22 à 27 de cette série complètement barrée de science-fiction. Là c'était pas pour faire un jeu de mots, mais c'est pourtant le cas de Rick Remender.
Ouais.
C'est au prix de $17.
C'est une alternative aux éditions Library Edition qui sont superbes, très grandes, mais plus chères, à $50, il y en a deux.
Et aux éditions françaises publiées par Aquileos, où on a l'intégrale en deux tomes.
Voilà, qui sont pareils, qui sont les copier-coller des Library Edition, mais en format un petit peu plus petit. Ouais.
Continuons chez Dark Horse avec Juice Squeezers, pardon, volume 1 de Great Bug Elevator, série de David Lafemme et de Lee Loughridge. C'est pas toi, Bruno, qui avait lu ça?
Non, mais j'étais intéressé par le pitch, mais j'avais feuilleté, j'avais pas trop aimé la partie graphique, et je suis pas allé plus loin que d'avoir feuilleté le premier numéro, quoi.
Ou alors c'était peut-être Bunny qui avait lu Juice Squeezers. Je sais que quelqu'un l'avait lu, enfin je suis quasiment persuadé que quelqu'un l'avait lu. En tout cas, c'est au prix de $13, avec les 4 épisodes de la mini-série, ainsi que les 3 premiers chapitres qui étaient lancés dans le Dark Horse Presents 26 à 28, ce qui représente une sorte de numéro 0. Voilà, pas très cher pour un TPB. Encore chez Dark Horse, nous avons Skyman volume 1, la série de Joshua Elflaikov dans ce monde, dans cette branche en tout cas super héroïque de Dark Horse, au prix de $15, avec donc le premier arc de la série.
Ouais. Projet Black Sky.
Exactement, voilà, je recherchais le nom, je ne le trouvais plus. Ensuite, nous avons chez IDW Danger Girl Back in Black, le TP de cette mini-série qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça chez IDW, qui était écrite par Andy Hartnell avec des dessins de Nick Bradshaw, au prix de $18. Tu l'avais lu, je crois, Bruno, non?
Je sais plus.
Danger Girl, je crois que tu l'avais
lu. Non, pas celui-là, je crois pas.
J'ai la mémoire qui flanche à cette heure-ci, honnêtement. Je dois avouer qu'après la journée, là, ma journée compliquée, c'est j'ai la mémoire qui flanche. Pour les fans de vieux comics encore, Thunder Agents classique TPB volume 4, toujours chez IDW, avec Thunder Agents numéro 11, le No Man 1 et 2, le Dynamo numéro 3, vraiment des vieux numéros des Thunder Agents. Cette série qui avait été reprise chez DC et qui est reprise actuellement chez IDW, c'est au prix de $30. Et là, nous avons un gros, gros, gros bouquin, Walter Simonson's Lawnmower Man Artist Edition Portfolio. Voilà, l'adaptation du Lawnmower Man de Stephen King, traduit en français par Le Cobaye. Vous avez peut-être vu ce film avec
Le
Job
mec qui tond la pelouse.
Ouais, voilà. Bah, ça s'appelait le... parce qu'il était, il était jardinier.
Oui, je me souviens.
La pousse. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film dans les années.
Un film assez qui a pris un gros coup de vieux.
Qui a pris un sale coup de vieux, ouais, qui est devenu quand même sacrément moche, quoi. Déjà que c'était pas très beau à l'époque.
Ah, la réalité c'était... virtuelle dans les années 90.
Ouais.
C'était quelque chose.
En tout cas, c'est la première fois que vous allez pouvoir le retrouver, puisque ça a été publié qu'une seule fois dans un vieux magazine Marvel en 1981. C'était l'adaptation donc, du roman et non pas de la version film des années 90. C'est au prix de $60, c'est une artiste édition de chez IDW. Maintenant, chez DC, nous avons le 9e hardcover de la Ultimate Collection de Invincible. Je n'ai pas les numéros sous les yeux, malheureusement, je ne sais pas ce que ça reprend.
Chez Image, t'as dit chez DC.
C'est j'ai dit chez... Oh, pardon, je pensais à Image, pourtant. C'est au prix de $40, voilà, pour ceux qui ne veulent plus attendre les éditions françaises qui tardent un petit peu à venir, c'est vrai.
C'est un peu lent.
Bah, ça rassemble les deux derniers TP à chaque fois, c'est les éditions de luxe, c'est ça?
Ouais, l'Ultimate Collection, donc volume oui. 17 et 18, si je calcule.
C'est du hardcover un petit peu plus grand que la normale, qui rassemble deux TP. Donc ça rassemble les TP...
17-18, bah, 9 x 2, quoi.
17-18, ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Nous avons chez Oni le premier TP de Bunker, la série de Joshua Elfakov, série qui sort d'abord en digital, qui a été collectée en version papier et réadaptée en version papier chez Oni Press. Voici le TP de cette série avec les 4 premiers épisodes au prix de $20. Série très intéressante graphiquement, hein, dessinée par Joe Infuranari. Désolé pour l'écorchage de nom. Voilà, graphiquement très 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 intéressante.
Par contre, les TP d'Oni Press sont quand même chers.
Ils sont un peu plus chers.
Même, ouais, même ouais. Les éditions, même hardcover, sont vraiment très très chers, je trouve.
Ah, mais ils sont bien fichus. Par exemple, je sais pas si t'as vu celui de Letter 44.
Il y a vraiment beaucoup de bonus. Beaucoup de bonus.
Puis il y avait une couverture métallisée, brillante, digne des cartes Dragon Ball Z secrètes.
J'avais en tête Stumptown de Greg Rucka qui est trouvable uniquement à hardcover à 30 ou $35 pour 5 numéros,
cher,
comme
ouais.
Ça. Enfin, qui est introuvable dans une autre édition. Enfin bref.
En français.
C'était une apostrophe.
C'est peut-être aussi moyen pour eux de faire entrer un peu d'argent dans les caisses, puisqu'on sait très bien que le hardcover reste sur les stands alors que les singles ne le font pas. Et
oui.
Sont disponibles aussi ailleurs que dans les comic shops, notamment. Passons chez un petit éditeur maintenant, Third World Studio, qui publie une série que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas mal de retard dessus, mais là voici un moyen de la rattraper pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Ça s'appelle Stuff of Legend, c'est un omnibus, c'est du hardcover, c'est le premier volume, Expanded Edition. Une série où un peu à la manière de Toy Story, où les jouets d'un enfant prennent vie pour aller justement le chercher, puisqu'il est enlevé par un espèce de démon qui l'amène dans une autre dimension. C'est au prix de $30. Une série qui est publiée en plus en format à l'italienne, avec des superbes dessins. Voilà, ça fait 260 pages cette édition. Je vous encourage au moins à y jeter un œil si vous ne connaissez pas, si vous pouvez le trouver dans votre comic shop. Jetez-y un œil, franchement c'est superbe et c'est extrêmement bien écrit et ce n'est pas pour les enfants malgré le côté jouet qui s'anime, etc. C'est quand même assez mature, assez violent. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de trucs comme ça, mais c'est assez dur, quoi. Quand même assez dur à lire. Autant par les thèmes abordés que par la mort de certains personnages qui se font bien déglinguer, quoi. Même si ça reste des jouets. Passons maintenant à des bouquins autres que du comics, mais qui font partie de ces thèmes geeks que l'on affectionne. Nous avons un bouquin qui sort chez Fantagraphics, qui s'appelle « Film noir à tes souhaits, Flo ». 101,
merci.
Film noir 101, 101, hein, c'est un moyen de... C'est le premier cours que vous avez en fac, le 101, c'est le niveau, le premier niveau, en fait, le premier degré. Donc, film noir 101, hardcover, poster de 1940 à 1950, qui va reprendre dans un très joli format les posters des gros films noirs des années 40 à 50. Des thèmes qui sont chers aussi aux comics actuellement, puisqu'on a beaucoup ce renouveau du pulp, notamment. Donc voilà, si vous avez envie en tout cas de découvrir peut-être des films, vous donner envie de voir des films, c'est au prix de $35, c'est chez Fantagraphic Books qui sortent des très belles éditions. Chez Disney sort un bouquin sur une biographie pour enfants de Walt Disney, qui s'appelle Walt Disney Drawn from Imagination, qui va revenir sur la vie de Monsieur Walt Disney, comment il en est arrivé à créer ces personnages-là. C'est au prix de $15, un moyen pour les enfants peut-être de découvrir la vie de cet artiste qui a quand même beaucoup influencé notre génération et toutes les générations à venir et qui influence encore les générations d'aujourd'hui.
Une vie très secrète, hein. Je sais pas à quel point ça va être
Oui,
détaillé
mais non,
parce
là,
que.
là c'est vraiment, non, là, c'est vraiment le côté soft, le côté comment il est arrivé à dessiner ça. Voilà, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est quand même publié par Disney, donc voilà, ça va pas le trasher trop, quoi. Mais ça peut être un bon moyen pour les enfants d'aller plus loin que le simple dessin animé, simplement regarder un dessin animé, quoi. Et leur montrer qu'il y a des gens derrière aussi. Enfin, une biographie est sortie chez Chicago Review Press, une biographie sur Joss Whedon.
Ah.
Là, je voulais le signaler, parce que voilà, Joss Whedon est quand même aujourd'hui peut-être une icône geek, s'il en est, en train de tourner évidemment Avengers 2, c'est au prix de $30. Voilà.
Ouais, j'avais
Parle
un
donc de
petit
sa
truc.
vie, de son enfance et de tous ses succès, voilà.
J'avais un petit truc à rajouter chez Dark Horse, c'est une très belle réédition du Ring of Nibelung de Craig Russell, dans une édition complète en hardcover. Un truc qui
Ah
était
bah j'ai raté ça sur ma liste,
assez
pardon.
compliqué à trouver actuellement. Et donc, qui va adapter tout ce mythe des légendes nordiques.
L'anneau des Nibelungen,
Voilà,
bien
c'est
sûr.
ça. Et c'est vraiment très joli. Et
Avec
l'édition
Siegfried.
est de très très bonne qualité en plus.
Siegfried, et si vous voulez en savoir plus, mais que vous ne voulez pas acheter ça, eh bien je vous encourage à jouer à Soul Calibur.
On va revoir la partie Asgard de Saint Seiya. Donc,
Ou à
petite
revoir les
pub.
films allemands expressionnistes.
Aussi.
Si vous aimez les adaptations en 6 heures, voilà. Je ne plaisante pas. Non, mais c'est très très bonne légende hein, que l'anneau des Nibelungen. J'avais étudié en cours d'allemand à l'époque. Putain, en quatrième. C'était la violence. Bref, passons. Passons à quelque chose qui a peut-être un peu plus de lien avec les comics. Il s'agit de la partie DC. Bruno, tu vas ouvrir le bal avec la sortie du deuxième numéro de Grayson.
J'ai failli ne pas avoir de titre DC cette semaine.
Moi non
Parce que
plus.
j'avais tellement de retard sur beaucoup de séries que j'aime bien, comme Green Arrow ou Earth 2. Mais j'ai vu qu'il y avait Grayson et j'avais lu le premier, donc hop, j'avais trouvé ça pas mal le premier. C'était une bonne entrée en matière. Donc c'était un titre écrit par Tim Seeley avec des dessins de Michael Hanin. À noter qu'il y a également Tom King qui participe à l'écriture du scénario. Le premier numéro nous présentait le nouveau statut de Dick Grayson, hein, qui fait partie maintenant de Spiral, une sorte de société d'espionnage, qui est basée en Angleterre. Et donc il s'appelle l'agent numéro 32, je sais plus quel numéro c'est, un truc comme ça. Enfin, il a un numéro quoi,
Ou 37, je sais
ou
plus. Oui,
37.
enfin un numéro, oui.
Voilà,
Peu
agent
importe.
37, tout à fait. Et il fait équipe avec Elena Bertinelli, qui est l'ancienne Huntress dans le monde avant les New 52. Et en fait, ils sont cette société-là, enfin cette association Spirale, ils ont l'air d'être à la recherche d'objets assez étonnants, des sortes de morceaux de corps qui possèdent des pouvoirs. Dans le premier numéro, ils avaient retrouvé, je sais plus ce que c'était, une sorte de poumon mutant, qui explosait. Et là, en fait, ils sont à la recherche d'un estomac, un estomac qui avait été fabriqué par je ne sais qui, et qui donne à la personne qui possède cet estomac une capacité de vélocité à peu près équivalente à celle de Flash. Donc, Dick Grayson et Elena Bertinelli sont envoyés en mission justement dans une ville à côté de là où ils se trouvent. Là, ça se passe en Angleterre, où ils ont repéré justement ce personnage qui a perdu un petit peu le contrôle de ses pouvoirs, et ils vont devoir essayer de récupérer cet organe. Tout ça, c'est un fil rouge en fait, puisqu'on a le chef de Spiral qui s'appelle Minos. Qui a l'air d'avoir un plan secret parce qu'il veut rassembler ses organes peut-être dans un but personnel. Et en parallèle de cette histoire, on a toujours ce Midnighter qui sort un petit peu de sa série Stormwatch pour vivre des aventures dans le titre Grayson, où il est dans un
Pardon, des aventures dans Grayson et pas dans Dick Grayson, s'il te plaît. Franchement, c'était facile de ta part alors que Midnighter, enfin voilà.
C'était un peu facile. Où en fait, il a l'air d'avoir le même but que Spiral, puisqu'il essaye de retrouver également ces parties de corps qui ont été modifiées. Ça nous parle d'un projet spécial où il a peut-être été mêlé et ce qui lui avait peut-être donné ses pouvoirs avant. Donc il y a quand même tout un plot qui est assez touffu. Il y a de l'action, c'est quand même assez plaisant. La partie graphique est très réussie, hein, ce que fait Michael Ranin est très très bon. Voilà, on voit passer des personnages comme The Hood. On a des petits clins d'œil puisqu'on voit quand même Batman qui continue d'avoir des contacts avec Dick de façon un petit peu secrète.
Ce The Hood qui ressemble quand même vachement à Azrael.
Ah, carrément, carrément, carrément. Et voilà, donc c'est plaisant. Reste que ce plot autour des organes qui doivent être rassemblés par Spiral, je le trouve encore un petit peu nébuleux, mais pas inintéressant puisqu'il y a quand même ce côté où en fait ils ont l'air de connaître tous les secrets des super-héros DC, y compris leur identité secrète et d'où ils tiennent leur pouvoir. Donc voilà, donc c'est intéressant, c'est un titre en plus à 3$, qui est pas très cher, qui est très beau.
Et c'est un titre qui a particulièrement plu à Flo cette semaine.
Ouais, c'est mon coup de cœur de la semaine même, c'est un coup de cœur, coup de pouce pour cette série dure, parce que c'est assez couillu en termes de plot, je trouve. C'est bien touffu, il y a pas mal d'éléments, les choses qu'on apprend, notamment par la personne qui sont en charge d'intercepter, sont avec, il y a d'autres histoires d'organisation chelou, on sait pas trop ce que c'est, mais en même temps il y a un côté vraiment film d'espionnage, comme dirait Minos dans une de ses répliques, c'est très like a 60s Fleming.
Ouais.
Pour ne pas dire James Bond parce que c'est licencié, quoi.
Voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est assez psychédélique et ça se lâche justement dans ce côté. Ça assume ses idées de scénario un peu improbables, mais un peu à la manière d'un Morrison.
Oui, bah de toute façon, Spiral avait été pas mal développé dans Batman Inc. et on reste un petit peu sur ce type d'organisation bizarre.
Ça garde un peu ces idées cheloues de Batman King Inc. et un peu typique de Morrison. Donc ça m'a plu, et ça m'a plu finalement d'être un peu paumé et de devoir bien m'accrocher pour essayer de mettre tout ça en place. Mais on sent qu'il y a vraiment de l'histoire, et il y a plein de choses qui sont lancées, et ça c'est intéressant. C'est pas juste des numéros avec un peu de baston et deux trois punchlines à la con, quoi. On sent qu'il y a une vraie histoire, et chez DC c'est bien en ce moment d'avoir de bonnes histoires. Comme quoi chez DC, il y en a des biens.
Tu insistes.
Il y a quand même la meilleure anecdote ever sur Alfred aussi.
Oui.
Oui. Avec cette tête qui m'a fait mourir de rire. Au début, je savais pas qui c'était ce personnage, mais voilà.
Je pense que franchement, Dick a beaucoup de toupets.
C'est ça, ce genre de choses. Exactement.
Bref, j'ai pas avoir grand chose de plus à rajouter que ce que vous avez déjà dit. Très bonne série, très fraîche. Graphiquement très sympathique à suivre, avec pas mal de petits trucs par-ci par-là. Franchement, du très bon, très bonne série que ce Grayson, hein, tout simplement. Et j'ai hâte de voir où va aller ce mystère.
Voilà.
Voilà, ouais. C'est tout. Bah, hein, comme j'ai dit, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Un bail, coup de cœur de Flo, et puis toi, t'as bien aimé, donc.
Un bail aussi, hein, pour moi. Ouais.
Je vous encourage vraiment à checker cette série parce que ça vaut le coup.
Allez, on continue avec la partie Superman triplette de Flo qui va nous parler du Superman Wonder Woman Annual numéro 1, Action Comics Annual numéro 1 et le Action Comics 34, tous les trois liés cette semaine.
Oui, donc les deux premiers sont des deux annuals qui constituent la troisième partie et la quatrième partie de Super Doom, qui est le troisième et avant-dernier acte du crossover Superman Doomed.
Peut-être le troisième titre le plus pourri de l'histoire, hein, avant nous.
Mais ça me fait penser à Dragon Ball Z, il y a Super Saiyajin level 1, level 2, Ultra Super Saiyajin, voilà quoi.
Mais c'est assumé, je pense, il y a un truc assumé. Donc du coup, ça fait beaucoup de lectures pour ces parties 3 et 4, puisque c'est deux annuals, ça fait $10 à 2 et 80 pages de lecture. Et en gros, les deux annuals ne sont pas tellement des suites, puisque la dernière page... qui est une double splash page, sont les mêmes dans les deux numéros. Donc ça se termine au même événement.
Dessiné par le même dessinateur ou à chaque fois c'est un autre dessinateur ? Non, d'accord.
Non, dessiné par le même dessinateur, à moins que je me sois couré, mais non, c'est le même. Qui est, je crois, Pascal Alix. Et donc, les deux annuals se passent au même moment, en fait. C'est une grosse confrontation entre avec notamment Superman plus ou moins possédé par Doomsday, mais qui a toujours un petit peu les intentions de Superman, c'est-à-dire qu'il veut détruire des choses, mais Superman arrive un petit peu à canaliser ça pour continuer à un petit peu faire le bien.
En gros, on pourra donc dire que Superman se libère de ses chaînes peu à peu.
Superman avait quitté la Terre parce qu'il y avait les gouvernements avaient lâché des brumes de kryptonite en fait sur toute la Terre.
Et les bâtards.
Au lieu de buter Superman, bah en gros ça butait la partie Superman en lui et ça révélait totalement Doomsday qui devenait incontrôlable.
Quelle bande de cons.
Donc c'est un plot point assez intelligent je trouve de la part des auteurs. Et du coup il s'était barré, sauf que là comme c'est trop la merde parce que il y a une armée géante de Brainiac menée par Cyborg Superman qui débarque. On se souvient que Lois Lane était possédé en fait par Brainiac. Hein.
Voilà, oh mon dieu, mais quand tu racontes ça, j'ai l'impression d'assister à un Elseworld quoi.
C'est tellement
c'est
de la folie.
Non, ah oui, c'est ouf.
Il se passe vraiment plein de trucs dans ce crossover. Hein. D'ailleurs, dans ces deux agneaux, on voit Steel évidemment, on voit Lana Lang, on suit toujours ces deux personnes, mais on voit aussi Hawkman, on voit Simon Baz, on voit plein
Simon
de personnages.
Simon Baz.
On voit les Red Lanterns. On voit les Red Lanterns. Puis les Red Lanterns, bah, c'est leur secteur, donc ils le.
De qui tu
aussi.
Parles
du Green Lantern muslim. Voilà.
Je connais pas ce perso. Je sais
en
pas.
Gros, ces deux agneaux sont intéressants. Voilà, d'un côté, on va suivre plutôt Wonder Woman et aussi Steel et Lana Lang. De l'autre, on va suivre plutôt. Dans Action Comics Annual, les personnages, notamment gérés par Greg Pak, c'est-à-dire, on va voir Lex Luthor, on va voir Batman qui est dans la forteresse de solitude, on va voir le Ghost Soldier, ce personnage introduit par Greg Pak un petit peu plus tôt, qui est assez intéressant et qui travaille pour l'organisation qui justement, ça avait été plus ou moins vu dans déjà il y a assez longtemps, il y a quelques numéros. Celle qui est à l'origine, on va dire, d'avoir lâché Doomsday. Voilà, donc ces deux numéros se passent en même temps, mais c'est un peu une 80 pages de baston sur Terre, l'invasion de Brainiac, et en même temps essayer de Batman et consorts qui essaient de, on va dire, d'enlever les trouver un plan pour enlever les particules de kryptonite sur Terre, bah pour que Superman puisse reprendre contrôle sur lui-même et agir pour le mieux sur Terre, quoi. Donc c'est pas mal, c'est vraiment cool, c'est assez explosif ces deux numéros. J'en conseille la lecture très honnêtement. De toute façon, si vous êtes abonné à ces séries, généralement vous êtes abonné aux annuals. DC nous a habitués à des annuals qui servent, qui sont vraiment intégrés à la continuité, et ces deux-là ne me déçoivent pas. Voilà, c'est vraiment 80 pages bien remplies, en plus ça se lit pas en 2 minutes, donc c'est vraiment intéressant. Et on enchaîne enfin, désolé c'est un peu long, mais il y a en tout 100 pages de comics à chroniquer.
Oui, non, mais c'est en même temps, c'est trois comics différents, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. J'ai passé vite fait sur les crédits. Superman Wonder Woman, donc, est bien sûr écrit par Charles Soule et dessiné par Ed Benes, Tony Daniel, Frank Herbert et Pascal Alix avec une pelletée de d'encreurs.
Et c'est donc la suite de Dune, hein. Je suis spécialiste de la vanne ce soir, excusez-moi.
Et Action Comics Annual est dessiné écrit par Greg Pak, évidemment dessiné par Craig Ken Lashley, Julius Gopez et Cliff Richards, je crois. Non, il y a du Ken Lashley, du Aaron Cooder, du Jack Herbert, du Cliff Richards, du Julius Gopez, du Will Conrad et du Pascal Alix.
Ouh là là.
Ah oui, mais visuellement, c'est assez bon, ils sont séparés un petit peu les séquences entre personnages, donc finalement ça m'a pas choqué quoi, mais c'est vrai que le roster est très 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 voilà. Et on enchaîne du coup sur Action Comics 34 qui est le premier épisode du dernier acte de Superman Doomed qui s'appelle Last Sun, qui est écrit par Greg Pak et quasiment entièrement dessiné par Aaron Cooder. Et où là, bah, je vais pas trop pouvoir en révéler, mais disons que Brainiac a encore de la ressource, voilà. Mais ça reprend vraiment bien la suite de ces deux annuals, donc je peux pas vous spoiler tout ce qui se passe dans ces 80 pages, si ce n'est que Brainiac a toujours de la ressource et qu'on va avoir ressurgir des menaces qui avaient déjà été posées par Greg Pak auparavant dans Action Comics.
Donc c'est à lire c'est absolument en... après les deux annuals, quoi.
Ah oui, ça prend vraiment la suite. Ça prend vraiment la suite. De toute façon, c'est marqué en haut, hein, chapter 3, chapter 4 et tout. Donc.
J'ai l'impression qu'ils ont ils ont mis plus de numéros que prévu, non, sur Doomed, parce que on est à beaucoup de numéros là, non?
Non, bah ils avaient déjà prévu que ça soit Action Comics et Superman Wonder Woman. Ils avaient ajouté Batman Superman, je crois, le mois dernier ou il y a deux mois. Ils ont rajouté un tie-in chez Supergirl qui sort dans deux semaines, qui sera la troisième partie de Last Sun.
Mais oui, c'est juste une ou deux parties dans Superman au départ. Enfin voilà, c'était vraiment pour.
Il y avait une partie dans Superman 31.
C'est un event dans les séries Superman, sous-divisé en plusieurs chapitres et réparti dans des séries différentes. Mais il y a une bannière, donc c'est assez facile de s'y retrouver quand même.
Ça va parce qu'il suffit de lire en fait Action Comics principalement et Superman Wonder Woman. Voilà, c'est vraiment.
Et il y a des pages de récap en plus.
Et il y a des pages de récap d'ailleurs assez marrantes.
Façon Daily Bugle. Pas Daily Bugle, qu'est-ce que j'allais dire.
Façon Daily Planet.
Oui, enfin, ça avait déjà été fait chez Spider-Man, donc ta confusion n'était pas si fausse que ça, oui. Bruno. Mais c'est très bien que DC se mette au récap. J'ai une petite question cependant, Flo. Si on a le budget que pour acheter un annual, est-ce qu'on peut acheter un annual et passer à l'Action Comics 34?
Oui.
Ou est-ce qu'il faut vraiment... Parce que comme tu parlais qu'il y avait cette double page finale qui était la même dans les deux, est-ce que les deux sont vraiment indispensables ou est-ce qu'on peut en zapper un
Oui, on peut. Honnêtement, on peut parce qu'effectivement, la situation ensuite se clarifie. Mais c'est vrai que ça raconte. Comme il y a pas mal de personnages impliqués de l'univers de Superman, je dirais c'est l'un ou l'autre, effectivement. L'un ou l'autre, c'est possible. Il n'y a pas trop de soucis pour ça. Je conseillerais plutôt le Action Comics, puisque c'est. Il suit vraiment plus Superman avec Crypto et puis dans la forteresse de solitude et tout. Et voilà, disons que Action Comics se penche plus sur comment enlever le brouillard de Kryptonite. Superman Wonder Woman est plus dans l'espace, voilà, avec Brainiac.
Et autre question, si tu devais choisir entre Forever Evil et Doomed, quel est l'event qui te plaît le plus à lire?
Alors, avant même que Flo réponde, je vais te répondre. Doomed, puisqu'il continue de le lire.
Oui, bah j'ai continué à lire Forever Evil aussi.
Ouais, mais t'avais pas envie d'arrêter.
Bah oui, c'était pas génial. Non, honnêtement, c'est bien. C'est pas transcendant. On sent que ça reste un événement éditorial. Mais honnêtement, les auteurs s'en sortent bien. Et j'ai pas trop vu le temps passer, honnêtement.
Dans ta description, en tout cas, c'est l'ampleur du truc qui me paraît bien plus, bien mieux géré que dans Forever Evil. Quoi. On a l'impression qu'il y a plein d'éléments galactiques et tout qui interviennent et ça,
ah oui,
ça a l'air assez sympa.
C'est pour ça qu'il y a ces deux annuels. Ça se passe sur. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs menaces en même temps. Quoi. Ouais. Il y a Doomed, il y a Doom dans le corps de le virus Doom. Il y a Brainiac. Il y a là dans le Action Comics 34. Encore d'autres menaces qui débarquent de la zone fantôme. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de menaces de partout, quoi. C'est vraiment explosif. Donc,
rappelons qu'en plus, cet event est censé expliquer la non-présence de Superman dans l'équipe de Justice League aussi. En tout cas, c'est censé en donner des clés, d'après ce qui avait été teasé à l'époque.
Ouais, bah ça va arriver vite. Donc, ce que je disais, c'est que c'est passé assez vite parce que finalement, ça a débuté mi-mai. Superman Doomed 1 est sorti mi-mai.
Avec le Omega ou le Alpha, je sais plus.
Le 1. C'était Superman Doomed 1. Et donc, ça continuera la semaine prochaine dans Superman Wonder Woman 11, Supergirl 34 le 20 août, et ça se terminera dans le deuxième one-shot Superman Doomed numéro 2 le 27 août. Voilà.
Okay.
Il y aura un aftermath en octobre, hein, tu me mets, voilà.
Puisque rappelons qu'en septembre, tous les titres s'arrêtent pour laisser place à des titres Futures End.
Voilà, donc je dirais c'est un bail. Alors c'est vrai que c'est cher là, parce qu'il y a quand même il y en a pour 14 $. Mais pour moi, ça vaut le coup quand même. C'est une bonne lecture. Moi, ça se suit bien depuis mai, ça se lit bien. Il y a plein de plots, il y a plein d'actions. C'est assez joli, donc voilà. Ça reste un bon bail quand même.
Super. Eh bien, nous allons terminer avec les TP. Super, oui, super, Superman.
C'était pas mal. Ouais.
C'était la petite vanne, ouais, voilà. Petite vanne qui passait en douce. Terminons avec les TP de chez DC cette semaine. Deux TP au programme, dont un chez Vertigo. Sortie du deuxième TP de Constantine avec les épisodes 7 à 12. de la série de Ray Fawkes avec des dessins de Simon Kudransky et Howard Porter. C'est au prix de $15.
Ouais. Alors là, c'est le truc le plus illogique du monde, c'est-à-dire que c'est des épisodes de Blight, mais sans les autres, quoi. C'était que la partie Constantine.
Oui, mais bon, allons pas chercher plus loin. Et nous avons aussi la sortie de Trillium en TPB. Si vous avez raté cette série, que vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'à la sortie française, eh bien, le voici disponible en TP au prix de $17. Énorme série de Jeff Lemire.
C'est le deuxième titre que je vous oblige à acheter.
Oui, c'est immanquable.
Ouais, vraiment, superbe histoire d'amour, de science-fiction, d'action, et avec des dessins. Certes, le trait de Jeff Lemire est particulier, mais il sied tellement à cette histoire romantique à travers les âges. Alors voilà. Et puis il y a tellement d'essais. Je sais pas comment LTP, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as feuilleté, Bruno.
Si, c'est bon. Finalement, c'est assez malin. C'est il y a moins besoin de retourner son comics. Hein. Par exemple, sur le premier numéro, ils ont pas mis d'un côté.
C'était un flipbook, ouais.
Ils ont pas mis d'un côté la première partie du premier numéro et de l'autre. Voilà, c'est juste tu alternes. T'as d'abord la première partie, après t'as la deuxième partie. Mais par contre, il y a toujours ces épisodes où il faut lire de chaque côté et qui sont présents. Voilà, c'est l'expérience est un petit peu moins ludique et original que en lecture single. Si vous avez la possibilité d'acheter les singles, prenez-les en single. Mais c'est quand même pas mal. Voilà.
En tout cas, ça revient quasiment au même prix, hein, finalement. Ouais. Parce que 8x3, enfin même ça revient moins cher de le prendre en TP. Alors certes, l'expérience est un peu moins grande. Mais voilà, c'est un peu moins cher si vous n'avez pas le budget. $17 pour ce TP de cette série en 8 épisodes. Eh bien, c'est tout pour cette semaine encore chargée, et moi qui pensais avoir pas beaucoup de lecture, bah finalement, voilà. On fait encore 1h40 d'émission.
Ouais.
Ouais, à 3, c'est pas mal.
Il y a des trucs très sympas.
Et de très bonnes sorties cette semaine. Et encore, on n'a pas eu le temps de tout lire, parce qu'on a tous notre travail qui nous occupe, effectivement. Donc, voilà, on a fait avec le minimum de temps possible pour préparer cette émission, et on est sorti avec que des choses plutôt bien. Pas un seul passe, hein, cette semaine.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Donc c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de comics, évidemment. D'ici là, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes. Je vous encourage fortement à visiter le site assez fréquemment, notamment la semaine prochaine, puisque nous allons y lancer une semaine spéciale Guardians of the Galaxy, puisque Guardians sort, je le rappelle, mercredi prochain en France, le 13 août. Enfin, si vous avez une petite baisse de régime côté comics, pourquoi pas écouter le spécial Saint Seiya que nous avons enregistré cette semaine et qui est disponible depuis aujourd'hui sur le site. Spécial où on a bien déliré et qui nous permet de parler d'un autre thème, le manga avec ses codes, mais aussi tout ce qui a bercé notre enfance, évidemment, ah oui. Puisqu'il s'agit de Saint Seiya, alias les Chevaliers du Zodiac, sauf Flo, qui n'a pas eu d'enfance.
Une série qui m'est très chère.
Je regardais 7 sur 7 à l'époque.
Tu l'écris comment, qui m'est très cher?
Ça m'a vraiment beaucoup marqué dans mon enfance.
Oui, mais enfin, vu ce qui s'y passe, ça m'est très cher aussi.
C'est vrai.
Eh bien, Flo, peut-être le moyen pour toi de découvrir cette licence. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et profitez du beau temps, ça va pas durer.
Oh, l'enculé. J'espère qu'il fera beau quand même, au mois d'août. Comme ça, on peut lire ces petits comics tranquillement sur une petite terrasse, profitant du beau temps. C'est beau.
C'est très beau, sauf qu'il fait moche.
Allez, ciao.
Eh ben, t'es con. Ouais. Mais oui, t'es con. Ouais.
Eh ben, t'es con.